Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Florian Gazan.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour le deuxième On refait le match de la saison sur RTL. Et évidemment ce soir, on va beaucoup refaire Messi au PSG. Paris en rêvait, le Qatar l'a fait, le meilleur joueur du monde va jouer en Ligue 1 et découvrir que Lorient, Angers, bah c'est pas Riron, c'est pas Valladolid. On parlera du transfert du siècle, ainsi que des conséquences de l'arrivée de la star argentine sur l'avenir de Mbappé, sur l'attitude de Neymar, sur le jeu du PSG, sur la Ligue 1 en général. La Ligue 1 dont il sera évidemment question aussi avec ce week-end, la deuxième journée de notre cher championnat. Hier, Monaco a perdu 1-0 à Lorient et actuellement, c'est le Galtierico, hein, le match entre Lille, son ancien club, et Nice, le nouveau. Et ben, ça se passe bien pour Christophe Galtier. Nice mène 5-0 à Pierre-Mauroy. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle, il y a un but. On fera donc un petit tour tout à l'heure pour avoir le score final avec Antoine Decarne, notre envoyé spécial là-bas. Et puis, on fera un petit thermomètre RTL pour prendre la température des favoris au titre. L'OM, Monaco, Lyon, on fera aussi un point Mercato, car c'est comme les amours de vacances, hein, jusqu'à fin août, il peut encore se passer des choses. Je parle pas pour moi, je précise. Sans oublier nos fameux tirs au but, l'exclusivité maison, une question sur l'actu foot et le plus rapide de mes invités à dégainer y répond. Mais qui sont ces invités ce soir pour refaire le match ce soir? Une sud-américaine excitée, j'imagine, comme une puce, enfin comme la puce, son surnom, pas à elle, mais à Messi. Cindy Colmenares, bonsoir, comment ça va?
Bonsoir Florian, bonsoir à tous.
Il était là la semaine dernière, il a accepté de prolonger, contrairement pour le moment à Kylian Mbappé. Xavier Barret, bonsoir.
Salut Florian, bonsoir à tous.
Ça va Xavier?
Impeccable.
Il s'y connaît comme personne en joueur sud-américain. Il n'est pas expert Las Vegas ou Miami, mais plutôt expert Rio ou Rosario. Dominique Baïf, bonsoir. Heureux de vous recevoir, ça va Dominique?
Bonsoir Florian, bonsoir à tous.
Et enfin, vous connaissez tous sa voix, un peu moins son physique de playboy. Et ce n'est pas merci, ce soir merci. Que vous le découvrirez, vu qu'on est à la radio. C'est Monsieur Sport 6. Plus de 2,5 millions de fans chaque week-end. Stéphane Tortora, bonsoir et bienvenue chez nous.
Mais quel bonheur d'être là avec vous.
Enfin, j'ai dit chez nous, parce que c'est, ouais. C'est le groupe M6.
J'ai traversé la route.
Mais fais attention, vous avez pris le souterrain?
Non, j'ai pris le feu rouge, au feu rouge, mais il faut être rapide.
Il aime le risque. Bon, en fil rouge, on suivra aussi la quatrième journée de Ligue 2 qui a débuté à 19h. Ça, c'est obligé, c'est pour faire plaisir à Christian Olivier, notre patron. Cet après-midi, le TFC a ouvert le bal en recevant le Sporting Club de Bastia 1-0. On suivra notamment Nîmes qui reçoit Pau. Vous êtes bien sur RTL et nous aussi avec vous.
Florian Gazan sur RTL.
On refait le match.
Ça y est, ici c'est Paris et désormais ici c'est Messi. Ce qui n'était qu'une éventualité samedi dernier, on en a parlé, est devenu mercredi soir une réalité. Affaire conclue, comme dirait Sophie Davant. Et une bien belle affaire hein, quand même, puisque le PSG s'est offert une antiquité de 34 ans, certes, mais qui a encore des allures de joyaux auréolés de 6 ballons d'or. Le meilleur joueur du monde, Lionel Messi, il sera présenté ce soir à 19h30 au public du Parc des Princes avant PSG Strasbourg. On vivra ça en direct grâce à Philippe Sansfourche qui est sur la route du parc. Normalement, il devrait arriver à l'heure. Et on se posera évidemment toutes les questions qu'il faut se poser. La première que je vais vous poser ce soir à vous tous qui êtes avec moi. Messi à Paris, est-ce que c'est le plus grand joueur jamais vu dans l'histoire de tout le championnat de France? A tout de suite pour On refait le match sur RTL.
On refait le match.
Florian Gazan sur RTL.
On refait le match sur RTL avec Cindy Colmenares, Xavier Barret, Dominique Baïf et Stéphane Tortora et Antoine Decarne qui est à Lille. Alors tout à l'heure, j'avais annoncé 5-0 pour Nice. Apparemment, il y a eu une annulation du but, Antoine. 4-0, c'est ça?
Exactement, 4-0 seulement, entre guillemets, oui, bon. Pour l'OGC Nice face au LOSC avec ce cinquième but annulé pour position d'hors-jeu de Mizian Maolida à l'origine de l'action. Ça fait 4-0 pour l'OGC Nice face au LOSC. On a vu un petit sursaut lillois avec Jonathan Bamba qui s'est infiltré sur le côté gauche de la surface de réparation. Ça a été détourné magnifiquement par Walter Benitez, le gardien niçois, mais les Lillois toujours amorphes, ils ne sont pas dans cette rencontre du tout. Et l'OGC Nice qui déroule son jeu, vraiment impressionné par cette équipe de Christophe Galtier.
Ouais, qui fait un bon retour à Pierre-Mauroy. Enfin, moi, pour
le meilleur
supporter.
Des retours possible.
Ah oui, ça c'est sûr. Il va passer une bonne soirée. Par contre, Olivier Létang, s'il avait un dîner avec sa femme, il va peut-être l'annuler.
Un petit peu moins.
Bon, Antoine, s'il se passe quelque chose, vous intervenez. Évidemment, on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres buts. Il reste quoi, un petit quart d'heure de jeu, c'est ça?
Exactement. 12-13 minutes de jeu encore pour nous ce soir.
Bon, bah, régalez-vous et attention à l'insolation. À tout à l'heure, Antoine. On va parler donc évidemment de Lionel Messi, le Barça qui pleure, le PSG qui rit. Voilà, depuis mercredi soir, l'homme aux 759 buts et 315 passes décisives est devenu le troisième Lionel de l'histoire du PSG après Letizy et Potillon, bon, dont les stats furent nettement moins impressionnantes. Là, c'est quand même le Lionel ultime, hein, le joueur chez qui tout est grand à part la taille, 1m69, le talent, le palmarès, la notoriété. Alors, messieurs, mademoiselles, Messi à Paris, est-ce que c'est le plus grand joueur jamais vu de toute l'histoire du championnat de France ?
Oui, évidemment.
Oui.
Je pense il est certainement, et c'est au-delà de ça, c'est les joueurs qu'il faut à Paris pour gagner la Champions League. C'est les joueurs qui a quand même 4 Champions League, c'est quand même assez énorme et qui peut donner énormément au PSG. Mais c'est surtout les côtés de l'MNM. J'aime bien l'appeler Eminem, c'est comme ça qu'on l'appelle en honneur au chanteur américain.
Messi, Neymar, Mbappé, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Il faut attention au lose yourself avec ces joueurs-là. Et vraiment, je pense que le PSG, plus que jamais, est très proche de son objectif de pouvoir remporter une Champions League. Et c'est grâce à Lionel Messi aussi. Même si ce n'est pas juste pour ça qu'il est important et pour ça qu'on le prend.
Bon, on va parler de tous les aspects de ce transfert, évidemment, parce que Messi qui se déplace, c'est pas rien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, messieurs, de ça ?
D'un point de vue purement statistique, oui, c'est le plus grand joueur. 6 ballons d'or, personne n'en a eu 6. Donc, il ne pouvait pas y avoir mieux. À l'époque, il aurait peut-être pu y avoir Cruyff, parce que, ou Beckenbauer, ou Platini, mais ils ne sont jamais venus. Ou ils sont venus juste avec, soit avec des adversaires, soit pour des matchs de gala. Donc du coup, oui, de fait, c'est le plus grand joueur qu'on ait jamais vu au Paris Saint-Germain. Alors vous l'avez rappelé, Florian, il a 34 ans. Donc il vient un peu sur la fin de sa carrière, mais il est encore de beau reste, ouais. On le sait. Maintenant, je pense que la différence, quand j'entends Cindy Colmenares qui dit qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, Cindy s'avance un peu. Déjà, Messi ne l'a plus gagné depuis 6 ans, la Ligue des Champions. Parce que la dernière victoire avec le Barça, c'était en 2015. Donc bien sûr qu'il a, c'est un joueur extraordinaire, mais tout, maintenant qu'il est là, tout va dépendre de la façon dont Pochettino va construire cette équipe.
Mais c'est pas que Messi,
parce que,
en fait.
Parce que,
c'est,
oui, mais par, joueurs, parce que en fait, et Sergio Ramos qui arrive aussi.
Ah là, bon, surtout. Et Wijnaldum.
S'il arrive un jour.
Oui, il est quand même sur une jambe.
Sergio la ramasse pour l'instant.
On va devoir attendre un peu avant.
Il a rien perdu de son talent. Et c'est ça qui est génial. Et par rapport à ces joueurs-là, il y a Messi. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a un doute. On s'est dit comment ça va se passer au niveau du repli défensif. Parce qu'on sait très bien que des Mbappé et des Neymar ont plus de difficultés qu'un Di Maria, par exemple, qui n'a pas du tout du mal, et Pochettino le sait très bien, à faire les replis défensifs, à faire cela. Mais Pochettino a aussi l'habitude de vraiment mettre une composition qui est très offensive. Et donc, moi, je pense que des joueurs comme Wijnaldum vont être là un peu au milieu pour venir protéger ces milieux. Et au niveau des défenses, avec évidemment Ramos, avec Marquinhos, je pense qu'ils sont l'armada pour vraiment pouvoir être très proches et la remporter. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été finalistes. Ils sont été à ça.
Moi j'ai un souvenir, d'une une d'équipe il y a un mois avec Griezmann, Mbappé et Benzema. Tout pour l'attaque, que le monde entier nous envie. Et à l'arrivée, cette attaque, on a vu ce qu'elle est devenue. Donc, il faudra évidemment que aligner des très forts attaquants peut permettre de marquer des buts. Mais comme le disait Cindy aussi, il faut qu'il y ait des gens derrière qui fassent le boulot, qui reviennent, qui se replacent. Ah bah, et ça, pour l'instant, moi, je serais curieux de voir la première composition d'équipe avec Messi.
Messi, il faut dire que Messi n'a plus la marche arrière. Hein. Depuis quelques années, ça ne s'est plus reculé. Hein.
Un joueur, il court 6 km par match, selon les statistiques de l'UEFA. Un peu plus, Ter Stegen à Barcelone, il court presque plus que lui. Non, mais c'est vrai, le gardien allemand. Donc,
mais après, c'est pas ce qu'on lui demande aussi, on sait très bien que c'est un joueur qui ne va pas faire les efforts défensifs, mais offensivement, il fera toujours la différence. Oui, il fera toujours la différence, et c'est aussi pour ça qu'on le fait venir. Sur la première question, à savoir, est-ce que c'est le plus grand joueur qu'on ait vu dans l'histoire du championnat de France ? Moi, j'ai envie de répondre oui. Aujourd'hui, c'est un joueur qui a marqué sa génération et l'histoire du football dans son intégralité. On ne parle pas seulement que depuis 15-20 ans. C'est vraiment un joueur qui a marqué l'histoire du football, et le voir en Ligue 1, aujourd'hui, c'est un véritable cadeau que l'on a pour les supporters du Paris Saint-Germain, mais pour les amoureux du football aussi. Maintenant, sur la deuxième question, et par la suite, on développera, à savoir, est-ce qu'avec lui, on va gagner des champions ? Faut parler collectif. On parle d'équilibre dans une équipe.
On en parlera. On va parler de tous les aspects, parce qu'évidemment Messi qui vient à Paris, c'est pas que du sportif, c'est également de l'économie. Et justement, tiens, on va avoir au téléphone Alexandre Dreyfus, le PDG de Socios.com, parce qu'on a appris que la venue de Messi au PSG s'était faite notamment par le biais de la crypto-monnaie. Voilà, il va être payé avec, vous connaissez le Bitcoin et ces trucs-là. Donc on va essayer de comprendre un petit peu plus comment ça se passe. Les tokens. Bonsoir Alexandre Dreyfus.
Bonsoir Florian.
Bienvenue dans Refait le match sur RTL. Donc cette venue de Messi, quoi, a obligé les dirigeants parisiens à faire preuve d'un petit peu d'imagination, hein, pour la financer. Donc on a parlé de cette histoire de crypto-monnaie. Bon, là on va rentrer en mode c'est pas sorcier, hein, vous faites Fred et moi je fais Jamie, Alexandre, pour expliquer tout ça à nos auditeurs. Bon, la crypto-monnaie déjà, c'est quoi ? Comment ça se passe ?
Alors, c'est plus simple qu'il n'en paraît. Déjà, ce qu'il faut comprendre,
c'est que
les crypto-monnaies, nous on appelle ça plutôt des actifs numériques. Et l'idée de ce qu'on a créé il y a 3 ans et demi avec, dans notre boîte, c'est que les fans du monde entier, ils n'ont pas accès au stade. Donc ce qu'on a créé, c'est qu'on a créé un actif numérique où vous et moi, on peut acheter pour 2 euros, 10 euros, 20 euros, etc. cet actif, ce qu'on appelle un fan token. Et en faisant ça, tout d'un coup, moi qui suis au Brésil, en France, au Japon ou ailleurs, je peux avoir une voix en tant que fan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, en tant que fan, je vais pouvoir voter sur une décision sur quelle est la musique dans le stade à chaque fois qu'on marque un but, quelle est la couleur du bus quand il va à l'étranger, etc. Et on a créé ça il y a 3 ans, et le PSG était le premier club au monde à avoir signé avec nous. Et aujourd'hui, on a 50 clubs, etc.
Oui, il faut dire qu'il y a d'autres clubs. Il y a le Barça, maintenant la Juve, le Milan AC qui ont rejoint ce système-là.
Et à Manchester City, Arsenal, on a à peu près 48 clubs.
Mais c'est quoi? C'est une forme d'actionnariat? Parce qu'en fait, du coup, là, vous me dites, avec un token, bon, moi j'ai les tokens, je peux décider quelle musique on va jouer à l'entrée du stade. Enfin, Lionel Messi, il s'en fout de savoir ça. Lui, il veut gagner de l'argent, en fait.
Oui, mais ce qu'on fait, c'est qu'on a créé justement ces actifs numériques. Actifs numériques. Et une part de la rémunération, ça, c'est pas nous, hein, c'est le club qui fait ça, une part de la rémunération, c'est ces tokens. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour montrer que les joueurs sont aussi proches du club que les fans. Et ça, c'est ça qui est intéressant. C'est une première au monde. Je peux vous d'ores et déjà le dire, ce ne sera pas la dernière fois. Il y a d'autres clubs en Europe qui vont le faire très prochainement, dans cette saison. Et c'est super intéressant parce que, voilà, évidemment, ça fait la une et c'est rigolo.
Mais ça veut dire que, du coup, Messi, il a eu un certain nombre de fan tokens. Je ne sais pas combien, c'est peut-être sans doute confidentiel et vous ne me le direz pas. Mais ça veut dire quoi? Ça va prendre de la valeur. J'ai regardé ce matin, le token du PSG était à 110 euros. Donc ça veut dire qu'en gros, si Messi... Non. Et performant, ça va être plus cher. C'est quoi en fait? Est-ce qu'il peut gagner de l'argent avec ça? C'est ça que je comprends pas bien en fait.
Ça doit pas être 110 euros, ça doit être 32 euros ou 34 euros pour l'instant. Mais ça monte, ça descend. En fait, moi ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la valeur d'un fan token, c'est la valeur du sentiment des fans aujourd'hui. On va prendre l'exemple de la Ligue des Champions l'année dernière. Le token, il était à un moment donné à 10 ou 15 euros. Ouais. Il est monté jusqu'à 50. Et après, il est redescendu. Donc, est-ce que ça monte et ça descend en fonction du sentiment des fans à un moment donné? Est-ce que Messi peut gagner de l'argent dessus? Oui ou non. Mais ce qui compte, c'est qu'on éduque tant les joueurs, le club, les médias et les fans à propos de ça.
D'accord, mais en fait, finalement, c'est un peu comme des actions. Si j'ai des tokens et qu'ils prennent beaucoup de valeur, si je les revends, je gagne de l'argent, c'est ça?
Alors oui, sauf que c'est pas des actions, parce que des actions, ça vous rapporte de l'argent en tant que dividende. Là, c'est au lieu d'avoir une part d'une société, vous avez une part d'influence.
D'accord.
Et c'est ultra innovant, c'est un peu compliqué pour l'instant, mais on y vient petit à petit.
Bon, Stéphane ?
Oui, bravo, très bien. Aujourd'hui, les chiffres qui circulent quand même sur Messi, c'est 40 millions d'euros. Par an, ce qui représente, j'avais fait le calcul et vu le détail, 5000 euros de l'heure, ce qui est sympathique. Donc les tokens,
on est moins payé,
tu m'avais pas dit ça. Et surtout, moi, où je suis étonné, si vous voulez, et ça, je remets pas en cause la parole des dirigeants du Paris Saint-Germain, qui disent qu'il n'a eu aucune prime à la signature. J'ai quand même un petit doute là-dessus.
Oui, effectivement, je rejoins complètement Stéphane Tortola. Je pense qu'il y a dû y avoir, et de toute façon, c'est courant, un joueur, il n'arrive jamais gratuitement, il est libre, effectivement, mais il a dû avoir, par les biais du Qatar, de l'Argentine, peut-être d'autres moyens, on ne saura pas tout.
Ça, on ne saura pas tout. Bah, merci Alexandre, juste dernière question, est-ce que ce genre d'opération, par exemple, va généraliser pour offrir un nouveau contrat en or à Kylian Mbappé?
Je peux pas commenter.
Ah d'accord. Merci Alexandre, le PDG de Socios.com, donc qui nous racontait cette histoire de fan token. Donc voilà, Messi, premier joueur qui a été payé en partie avec de la crypto-monnaie. Et, ben, on espère qu'il en sera content. Bonne soirée Alexandre, merci. On va revenir donc sur Lionel Messi. On va parler de l'aspect quand même économique. C'est vrai qu'il rapportait quand même directement et indirectement 30% des revenus du Barça. Lionel Messi, c'était absolument énorme. C'est 200 à 300 000 maillots supplémentaires potentiellement vendus. Sachant que le PSG touche 40 euros par maillot, ça fait 10 à 12 millions d'euros déjà. Est-ce que c'est l'affaire du siècle pour le PSG, Messi?
Forcément. avec un joueur de cette ampleur, avec, même si on sait que sur la partie marketing, il est peut-être moins influent que peut l'être un Cristiano Ronaldo, on sait très bien que juste avoir le fait d'avoir ce joueur dans son effectif, du moins pour les maillots, mais on l'a entendu aussi, le président Nasser El Khelaifi a indiqué que beaucoup de sponsors désormais se sont rapprochés un peu plus du côté du Paris Saint-Germain pour pouvoir s'associer au groupe, parce qu'il y a ce potentiel Messi, et donc pour forcément associer l'image de Messi au Paris Saint-Germain et même à la ville de Paris, c'est un gain énorme pour cette équipe.
Alors, économiquement, c'est une bonne affaire, Dominique, donc sportivement, on va revenir là-dessus quand même. Est-ce que ça va pas être trop compliqué à gérer Lionel Messi, parce que là vous mettez un titulaire en puissance, donc lui de toute façon, quoi qu'il arrive, il sera sur la feuille de match. Mbappé s'y reste aussi, Neymar bah évidemment s'il
veut sortir, à mon avis ça sera pas très simple non plus.
Voilà, bah, pour les sortir faudra un fusil, ouais. Je pense donc non mais comment
je pense qu'il y a des gardes du corps qui vont
comment Mauricio Pochettino va-t-il pouvoir gérer tout ça, comment est-ce que c'est faisable déjà?
Alors en tout cas la pression sur le Pochettino elle est énormissime, parce que n'oubliez pas que la saison dernière les PSG a été un point de Lille, donc il a pas gagné. Et effectivement, on dit qu'il n'a pas gagné parce qu'il n'avait peut-être pas les joueurs qu'il fallait ou il n'avait pas les ressources. Au jour d'aujourd'hui, la pression, elle est mais jamais plus énorme, parce qu'il a absolument tout ce qu'il lui faut. Et les tout, c'est savoir jouer avec toutes ces pièces-là. Moi, j'ai l'impression que Pochettino, en tout cas pour l'avoir vu à Tottenham et les habitudes qu'il a avec les joueurs, il saura faire. De toute façon, Pochettino a toujours une stratégie offensive. Il oscille un peu entre les 4-3-3, les 4-2-3-1. Donc, il va, à mon avis, se servir des nouvelles recrues et faire en sorte que ça fonctionne. Mais tout dépend aussi de Mbappé, parce que si jamais Mbappé, qui cherche à partir, et que si le Real Madrid fait plaisir au PSG, fait une offre conséquente, il s'arrive à l'avoir chez eux, et bah peut-être que finalement ça sera pas Mbappé avec qui il faudra jongler, mais avec d'autres joueurs qui devront faire les rôles. Et là, ça c'est un peu plus compliqué.
Pochettino, vous aurez remarqué que ce soir il est présenté avec avec les nouvelles recrues, puisque l'an passé il n'a pas pu être présenté puisqu'il n'y avait pas de public. Ouais. Et donc là encore, c'est un moyen de le mettre en première ligne et sur le devant de la scène.
Après, Pochettino, il arrive là avec une mission qui est quand même un peu facilitée par le fait qu'il soit argentin. En plus, il est de Rosario, comme Messi et comme Di Maria, ils sont tous de Rosario.
Très donc,
il va y avoir donc une facilité de communication qu'il n'y aurait pas eu par exemple avec Tourelle ou avec un autre. Et puis, quand les joueurs arrivent à cet âge-là, ils sont plus fragiles, ils ont l'expérience. C'est vrai que Messi a l'habitude de toujours jouer. Et il l'avait mal pris, par exemple, quand Luis Enrique avait cherché à le sortir, etc. Maintenant, on peut penser que dans le deal, il y a cette possibilité avec Pochettino de dire, bah, écoute, toi, tu vas jouer en Ligue des Champions, tu vas jouer les grands matchs de championnat, mais quand il faudra aller jouer à Brest, et j'en suis désolé pour le supporter brestois, ou quand il faudra aller jouer... Voilà, tu te reposeras.
Et je pense que
tu resteras avec Neymar, qui aime bien se reposer aussi sur ces matchs-là.
Voilà, donc il va y avoir... toute la réussite de ce PSG-là galactique va être justement dans la gestion de ces joueurs-là. Il n'est pas question d'aligner l'équipe des stars à chaque match de championnat. Et d'abord, ils n'en ont pas besoin pour remporter le championnat.
Sinon, c'est les Harlem Globetrotters. Hein,
mais voilà, il va falloir gérer ça. Donc là, il y a un début de saison en plus qui lui rend service, parce qu'il y a des joueurs qui sont arrivés tard parce qu'ils jouaient la Copa América et jouaient l'Euro. Donc, ils ne sont pas opérationnels d'entrée. Il y en a qui sont blessés. Il y aura forcément des suspendus. On sait que Neymar, il est souvent suspendu. Donc, il va falloir faire tourner. Et ça va, je pense que le point d'achoppement, ça va être...
Blessé.
Souvent blessé aussi, un peu moins ces derniers temps, mais bon, les deux premières saisons, oui. Et surtout, le point d'achèvement, je pense que ça va être la première composition en Ligue des Champions. C'est là où ça va grincer, parce qu'il va falloir choisir entre Kimpembe et Sergio Ramos, il va falloir choisir entre Keylor Navas et Donnarumma, il va falloir choisir effectivement si on joue avec trois attaquants ou quatre attaquants. Donc ça va être révélateur. Et d'ici là, le tirage au sort sera aussi important, parce qu'on verra quel adversaire ils auront, mais d'ici là, il va avoir le temps de faire tourner, et c'est là où il va pouvoir installer sa diplomatie technique.
Nasser El Khelaifi disait qu'il y avait plein de nouveaux sponsors qui étaient intéressés par le PSG avec Messi. Je pense que Doliprane va signer, parce qu'apparemment il y a beaucoup de prises de tête à venir pour Pochettino. Dans un instant, on va parler de Kylian Mbappé, évidemment, parce que l'arrivée de Messi a forcément un impact sur Mbappé, positif ou négatif. Lequel? On verra ça dans un instant dans Refait le match sur RTL.
RTL, on refait le match.
Florian Gazan.
On refait le match jusqu'à 20h. À 19h30, on partira au Parc des Princes pour la présentation officielle de Lionel Messi avant ce PSG Strasbourg, où se trouve déjà Philippe Sanfourche. Bonsoir Philippe, ça va bien?
Bonsoir Florian, bonsoir à toutes et à tous.
En place?
En place et avec un bonheur non dissimulé, parce que tout est réuni. Évidemment, vous l'avez dit, le point d'orgue, ça va être cette présentation de la star et des stars, parce qu'il y aura tous les joueurs, toutes les recrues. Vous parlez de Sergio Ramos, de Wijnaldum ou encore d'Hakimi, ils seront là tout à l'heure pour être présentés au public. public. C'est le retour, le grand retour des supporters. Les 48 000 places du Parc des Princes seront toutes occupées tout à l'heure. Il fait un temps magnifique sur Paris. Le Parc des Princes est resplendissant. Ça sent le foot, en fait, tout simplement. C'est le retour du vrai foot et on était pressé de retrouver ça.
Pour lui qui n'est pas des bouteilles. Hein.
Il fait un temps barcelonais ce soir à Paris, ça tombe bien, mais s'il ne va pas être dépaysé, Philippe, c'est la coutume, hein, ce qui commence doucement.
C'est ça, mais ça va contribuer à son bonheur, puisqu'il le montre et il le démontre depuis qu'il est arrivé, qu'il est dans des dispositions avec un enthousiasme qu'on ne soupçonnait pas, parce que c'est vrai que ça a été quand même très très rapide et précipité cette arrivée à Paris. On pouvait craindre, imaginer peut-être une période d'adaptation, on verra le temps qu'elle durera sur le terrain, mais en tout cas par rapport au fait qu'il connaît beaucoup de gens du vestiaire, qu'il connaît l'entraîneur, on sent que Léo Messi est tout de suite dans des dispositions extrêmement positives.
Bon, Philippe, on vous retrouve tout à l'heure, on va filer à Lille parce que c'est terminé entre Lille et Nice pour le Galtierico, hein, le duel entre les deux clubs de Galtier, l'ancien et le nouveau. Antoine Decarne, alors qu'est-ce que ça a donné au final?
On
a
eu un but en plus. C'est terminé, 4-0 pour l'OGC Nice. Score final, Christophe Galtier qui a joué un bien mauvais tour à son ancien club, l'OGC Nice, qui a pris tout de suite le LOSC, qui a accueilli le LOSC à froid dès la première minute de jeu avec un but de Casper Dolberg, suivi à la cinquième par un but d'Hicham Boudaoui d'une frappe de 20 mètres limpide, pleine lucarne. Avmin Gouiri juste avant la mi-temps sur pénalty suite à une main d'André a alourdi la marque. Et puis en deuxième mi-temps, Casper Dolberg est allé de son doublé. Ça fait 4-0 pour le GC Nice. On n'a pas reconnu les Lillois de la saison passée. Une équipe lilloise amorphe, sans ressources, sans défense non plus. 7 buts en 2 matchs, hein, on le rappelle, après le 3 partout face à Metz la semaine passée. Il va falloir vite se remettre dedans pour Lille et puis pour Nice. Continuer sur cette dynamique parce qu'on a vu une très belle équipe de Nice menée par un Christophe Galtier aux anges, j'imagine, ce soir.
Est-ce que je peux faire une petite remarque par rapport à Ikoné? Il n'a vraiment pas été à sa meilleure forme. D'ailleurs, l'effet de l'avoir remplacé par Jonathan David, je pense que ça a vraiment aidé à l'équipe. Et une autre petite remarque, et vraiment c'est la dernière, c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable, tous les matchs à la maison, c'est solde pour une défaite pour les équipes qui jouent à la maison.
Il y a pas
Montpellier, OM.
Ouais, il y a eu Lorient qui a battu comme Monaco hier. Sinon, on n'avait aucune victoire à domicile depuis le début du championnat. Oui, Stéphane.
Oui, une stat. Hein, 7 buts en 2 matchs. Et l'an passé, ils en ont pris 23 en 38 matchs.
Ah oui, il va falloir.
Un tiers des buts des gens.
Il va falloir fermer les vannes.
Dans 4 matchs, ils vont à peu près arriver.
Ouais, et surtout, comme Monaco, 1 point en 2 matchs. Début de saison compliqué pour le LOSC et pour Monaco. Merci Antoine. Bonne soirée. Du côté de Lille.
Merci à vous, bonne soirée à tous.
RTL, on refait le match.
On va revenir sur l'arrivée, bien sûr, de Lionel Messi à Paris et forcément la redistribution des cartes que ça va entraîner sur le terrain et dans le vestiaire. Voilà, on peut difficilement imaginer qu'il ne soit pas au cœur du fameux projet. Et là où Kylian Mbappé aimerait être, lui aussi, malheureusement, le PSG, ce n'est pas une pieuvre, il n'y a pas plusieurs cœurs. Donc comment ça va se passer? Est-ce que vous pensez que finalement l'arrivée de Messi, c'est plutôt quelque chose de positif ou de négatif pour Kylian Mbappé?
J'ai envie de dire que dans un premier temps, ce serait positif puisque tu as évolué avec l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, avec notamment Neymar, avec lequel l'année dernière on a vu la complicité a très bien fonctionné. Maintenant, il y a aussi une deuxième partie qu'il faudra prendre en compte, c'est le système de jeu qui sera mis en place. On sait que Neymar sera normalement aligné côté gauche, Messi côté droit, donc Mbappé sera notamment dans cette position axiale. Et on sait très bien qu'il c'est un joueur qui a besoin de profondeur. Aujourd'hui, dans une équipe du Paris Saint-Germain avec toutes ces armes-là, qui aura forcément la possession du ballon et donc le monopole de ce ballon, les espaces vont se réduire. Et on sait très bien que Kylian Mbappé est peut-être un peu plus en difficulté quand il y a moins d'espace et surtout aligné dans une position axiale. Donc aujourd'hui, on va véritablement voir aussi comment Mbappé va pouvoir se sortir de ce système-là et comment pouvoir s'imposer à ce poste de numéro 9.
Quand vous dites se sortir, j'ai l'impression que vous allez dire se sortir de ce guépier.
Non,
c'est pas un guépier. Non, mais c'est vrai
en fait, déjà sur la forme, c'est quand même très étonnant que Mbappé ait attendu 3 jours avant de. Qui est un champion de la communication, de souhaiter la bienvenue à Léo Messi. Et la bienvenue, elle était quand même relativement froide.
Il a posté 4 photos de lui à l'entraînement avec Léo Messi.
Ouais. Certains sur les réseaux sociaux disent qu'on lui aurait pris son passeport.
Oui, Xavier.
Non, mais il faut voir une chose, c'est que Kylian Mbappé, depuis qu'il est tout jeune, il a grandi avec cette idée qu'on construit l'équipe autour de lui, qu'on construit l'équipe pour lui. C'est des choses qu'on voit autour des terrains de foot. Moi, qui ai un gamin de 11 ans, je m'en rends compte là, dans les clubs. Les parents viennent, ils sont persuadés qu'ils ont une perle et donc, ils demandent à l'entraîneur de faire jouer leur gamin comme ça parce que il faut que leur gamin, pour qu'il progresse, il joue comme ça. Et donc, Mbappé, effectivement, étant plus doué que les autres, il a bénéficié de cette De cet aspirateur-là. D'ailleurs, ça n'a pas été sans problème à Monaco à ses débuts, hein, parce que Bruno Irles, justement, n'avait pas voulu faire forcément comme voulaient les parents, et donc c'est la direction qui ensuite a écarté Irles et a fait la promotion de Mbappé. Et là, aujourd'hui, il arrive à Paris. Il faut rappeler que quand il quitte le Monaco pour le PSG, il vient bien sûr pour continuer à grandir, mais pour être la tête de pont du projet.
Mais il arrive en même temps que Neymar.
Il arrive en même temps que Neymar.
Qui est censé l'être.
Donc, oui, mais il a 18 ans. Et Neymar,
il venait d'avoir 18 ans.
Voilà, il venait d'avoir 18 ans. Aujourd'hui, il en a 22, bientôt 23. Hein. Et donc, ben voilà, il estime qu'il arrive à l'âge où il doit être la tête de pont, le numéro 1. Et donc, forcément, avec Neymar, ils avaient l'habitude de jouer, donc ça se fait. Mais Messi qui arrive, ça lui fait de l'ombre pour sa carrière, inéluctablement.
Il s'est quand même un peu coincé dans sa communication au mois de juin quand il a exigé d'avoir une équipe compétitive autour de lui, ce qui lui permettrait de réfléchir. Et il s'est pris en boomerang et en retour la réflexion de Nasser en lui disant aujourd'hui il n'y a plus raison qu'il s'en aille puisqu'il a une équipe compétitive.
C'est sûr qu'il ne pouvait pas anticiper le mercato, personne ne pouvait anticiper ce mercato que ferait Paris avec ses joueurs libres hein, comme Hakimi, l'ont payé, Wijnaldum, Donnarumma. Mais ceci dit, dans la déclaration d'Mbappé à l'époque, il y avait ça, mais il y avait l'autre aussi aspect, il disait quand même j'ai besoin de me sentir au cœur du projet, au centre du projet. Voilà. Donc c'est surtout ça aussi qu'il faut retenir.
Là, clairement, en faisant venir Messi, eh bien, Mbappé n'est plus le numéro 1, il est le numéro 2 au mieux, voire même le numéro 3. Oui. Donc forcément pour lui, la réflexion, je pense, elle est encore plus d'actualité qu'elle l'était il y a quelques mois. Parce que s'il veut être le numéro 1 et il a de l'ambition, il ne le cache pas d'ailleurs, il l'affirme, eh bien forcément, je pense qu'il va devoir aller voir ailleurs. D'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut espérer en France ? Il a tout gagné. Avec Monaco, déjà, il a été champion, ce qui était un peu extraordinaire. Et avec le PSG, il a été meilleur buteur du championnat. Il a gagné la Coupe du Monde.
Il manque la Ligue des Champions avec Paris.
Il manque juste la Ligue des Champions. Donc, est-ce qu'un autre club ne peut pas lui offrir cette possibilité-là ? Sûrement.
Oui, mais avec l'effectif actuel du Paris Saint-Germain, quand tu compares par rapport aux autres clubs européens, aujourd'hui, quelle est l'équipe la plus et la mieux armée pour aller au bout de cette Ligue des Champions avec les derniers résultats qu'on a eus? Paris Saint-Germain a fait demi-finale de Ligue des Champions. Aujourd'hui, tu te renforces défensivement au milieu de terrain, à droite, là où tu avais des lacunes, et tu rajoutes Messi. Donc aujourd'hui, quand tu regardes l'effectif du Paris Saint-Germain dans sa globalité, cette équipe est la mieux armée pour aller en Ligue des Champions. Il faudrait finir.
Pour aller en Ligue des Champions, oui. Pour la gagner.
Pour la gagner,
je suis pas sûr. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui sont aussi très bien armées.
Individuellement, faudrait voir.
Chelsea, Manchester City, le Bayern toujours. Je pense même que le Real Madrid, quand tu regardes le Real, eh bien ils ont encore d'énormes.
On va en reparler dans un petit instant, car il est 19h, donc on fait une petite pause. On va reparler de Kylian Mbappé, de Messi, du PSG, évidemment de l'OM, de l'OL et de toute la Ligue 1. Deuxième journée ce week-end.
On refait le match sur RTL
avec Florian Gazan.
Fait le match sur RTL, toujours avec Cindy Colmenares, Xavier Barret, Dominique Baïf et Stéphane Tortora. On va continuer de parler évidemment de l'arrivée de Messi et de ses conséquences, notamment pour Kylian Mbappé, parce que mine de rien, le président Nasser El Khelaifi, lors de la présentation de l'Argentin, a mis un petit tacle à notre kiki national sur le thème, en gros, tu voulais une équipe compétitive, tu l'as avec Messi, donc plus d'excuses pour ne pas rester, mais le problème c'est que pour l'instant, on ne sait toujours pas. La fin du mercato, c'est dans 15 jours, donc si Mbappé doit partir, c'est dans 15 jours, et s'il doit rester, sous quelles conditions? Bref, c'est le grand mystère. Et la question que je voudrais vous poser, c'est cette intervention de Nasser Al-Khelaifi. Quelque part, est-ce que c'est pour commencer à travailler la com du départ d'Mbappé pour dire voilà, nous on veut le garder, on est les gentils, mais lui le méchant il veut pas rester. Est-ce qu'il y a de ça déjà? Est-ce que quelque part c'est pas un aveu d'échec?
Je sais pas, je vais pas juger les intentions ou les façons de faire des Nasser Al-Khelaifi, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que c'est très doué parce que quelque part il a fait la communication qu'il fallait en disant voilà, les mondes entiers voient que enfin tu as l'équipe avec tous les éléments que tu voulais qu'il te faut.
Enfin, il est pas directeur sportif Mbappé, non?
Oui, mais quelque part il expose, mais il demandé Mbappé, il a été très clair lorsqu'il demandait qu'il lui fallait vraiment une équipe compétitive et Nasser Al-Khelaifi en quelque sorte lui dit et la voilà. Donc pour moi c'est doué. Après je vais pas aller juger les intentions ou faire un procès d'intention à Nasser Al-Khelaifi. C'est du business, c'est du football. Je pense qu'il est dans une position aussi lui difficile parce que en fait c'est plutôt Mbappé qui a les cartes en main, c'est lui qui pourrait partir libre l'année prochaine. Donc finalement il fait un peu avec ce qu'il peut.
Je pense qu'il met la pression parce qu'il est agacé, parce qu'il lui a fait plusieurs propositions de contrat, de s'aligner sur le salaire de Neymar,
celui de Messi, d'accord.
Ensuite, sur une durée de contrat. Et je crois, selon les informations que j'ai, que la durée de contrat était de 4 ans et qu'Mbappé a dit « je veux ça sur 2 ans ». Et ça, c'est pas réalisable financièrement, cette prolongation. Et donc, je pense que Nasser s'agace un petit peu sur l'attitude de Mbappé en disant « voilà, maintenant, on t'a donné tout ce que tu voulais ». Et je crois qu'il pousse à chaque fois Mbappé le curseur un petit peu plus loin. Et comme tu vous le dites très justement, effectivement, Mbappé est en position de force.
Et il faut faire attention, parce qu'ils peuvent très bien, les PSG a envie de faire CR7. Ça, c'est une certitude. Je ne sais pas s'il va pouvoir les faire maintenant et qu'ils n'aillent pas.
On joue à 11, hein, il y a un moment donné, il faut quand même faire des choix.
Mais vous savez, pour finir les PSG, pour avoir la Coupe du Monde, Messi et Ronaldo, en fin de carrière, finir au PSG, c'est énormissime. Alors là, ça sera les clubs qui auront à faire les plus gros coups de l'histoire.
Oui, enfin, c'est un club de foot, c'est pas un EHPAD, hein, quand même.
Oui, c'est le problème.
Ah, c'est quand même des génies, arrête.
Peut-être, mais il y a un moment où il faudra quand même avoir des joueurs pour courir. Alors ok, il y a Ganagay, il y a Ander Herrera, il y a Danilo, il y en a quelques-uns, mais si vous voulez mettre toutes ces stars ensemble, ils ne pourront pas non plus être tous les porteurs d'eau derrière. Donc dire éventuellement on laisse partir Mbappé et on prend Cristiano Ronaldo à 36 ans, ok, c'est un beau coup, là, on peut dire c'est magnifique au niveau marketing, ouais. Mais après, quel est l'avenir de cette équipe? Quelle est la perspective? Vous allez recruter des joueurs, comme le dit Florian, c'est l'EHPAD, quoi. C'est les joueurs en pré-retraite. Alors, ils ont beaucoup de talent, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Quel signe vous donnez à vos jeunes formés au club, qui déjà ont du mal à se faire une place?
Déjà,
je pense que là, faire un coup avec un joueur comme Messi, c'est effectivement l'opportunité qu'il fallait saisir. Mais de là à faire en plus venir Cristiano, je vois pas l'utilité.
Non, mais après aussi, on parlait du discours de Nasser Al-Khelaifi. Il se l'est permis parce qu'il fait signer Messi. Je ne suis pas sûr que si c'est un autre joueur qui signe, il met la pression à Mbappé. Là, il le met face à ses responsabilités, parce que Mbappé disait « je veux une grande équipe autour de moi ». Maintenant, il est là, il le met face à ses responsabilités. Aujourd'hui, Mbappé, s'il ne veut pas prolonger, il ne prolonge pas, il part l'année prochaine, et il n'y a aucun problème là-dessus. Il est encore décideur de son avenir.
Mais le PSG aussi, finalement, parce qu'eux peuvent se dire « bon, finalement, quand même, peut-être, le Real Madrid va dégainer 120 ou 150 millions, on parle de ça. Bon, finalement, si on les prenait, parce qu'il y a aussi le PSG, qui a, parce qu'il est sous contrat, Mbappé. Oui, c'est le PSG qui a la main sur la prolongation, mais le PSG a la main sur le contrat.
Il y a les Qatar aussi, parce que quand on parle du Qatar juste pour les PSG, il y a aussi les Qatar pour les sociétés de Florentino Pérez au Real Madrid. Donc il y a tout ça qui se joue, des jeux d'influence où effectivement il n'est pas impossible que les PSG fassent jouer ça en disant vous pouvez me prendre Mbappé, nous on va faire comme ça, on s'arrange, on a de notre côté.
Il y a un moment où il va falloir vendre un petit peu aussi, parce que acheter c'est sympathique.
Ah, mais c'est à condition qu'il y ait des ventes.
Un petit peu,
Ah, ils ont vendu Mitchell Baker pour 7 millions.
Normalement, ils doivent vendre pour 180 millions d'euros, c'est sûr. Qu'ils ne les attendront pas, sauf à vendre Mbappé très cher.
Donc Kurzawa n'a pas refusé Galatasaray.
Parle à l'OL, on va parler de l'OL tout à l'heure.
Kerrer ne semble pas être prêt à partir. Oui, la vie parisienne est sympathique, donc il y a un moment où il faut vendre.
Il n'y a pas que la vie, il y a surtout les contrats qu'ils ont.
Non,
ici,
c'est bien
les
ça.
Salaires que les ironique. Autres clubs ne proposent pas. Donc à partir de ce moment-là, les gars ne veulent pas bouger.
En tout cas, par rapport aux options que vous dites, de toute façon, c'est les deux options. Non, mais c'est les deux options. C'est soit il part, soit il reste. Mais si il reste.
Ah oui, ça, il n'y a pas de troisième option.
S'il reste, c'est génial. Parce que bon, il sera un peu le numéro 9 de Messi, il sera au centre. Ça, vous l'avez très bien expliqué. Et s'il part, alors j'en connais un qui va se frotter les mains, c'est Icardi. Parce que lui, dans là, il pourrait jouer au centre. Di Maria pourrait jouer à droite. Et Messi pourrait venir jouer au centre, comme il avait fait dans les Barcelona, des Pep Guardiola, en fait. Donc ça marcherait également. Donc en fait, finalement, les PSG ne dépendent pas forcément tant que ça de Mbappé, même si c'est une énorme star et qu'on souhaite qu'il reste au PSG.
Est-ce que tu crois qu'Icardi va rester?
Icardi.
Avec ce qui s'est.
Bah aujourd'hui, qui peut se le payer aussi? Parce
Icardi.
Qu'il a, oui, Icardi, qui le veut dans un premier temps? On sait qu'il y a une belle cote en Italie.
Il sera bradé.
Il sera bradé, il va retourner à l'Inter, qui a lâché
l'Inter. L'Inter n'a pas d'argent, donc ça va être compliqué de payer son salaire.
Romelu Lukaku, ils ont vendu Hakimi, ils ont quand même bien renfloué les caisses. Donc après, on trouve toujours des solutions.
J'émets une dernière hypothèse, après on va passer à l'OM. Est-ce que le plan suprême, ce ne serait pas de vendre Mbappé 120 ou 150 millions au Real, là, maintenant, et préparer une petite offre, faire tapis sur Haaland, hein, dont l'agent est comme par hasard Mino Raiola, et finalement récupérer l'équivalent d'Mbappé, mais qui court en plus, et qui est peut-être un peu plus motivé à jouer au Paris Saint-Germain, si Mbappé veut être... l'icône d'un nouveau projet unique, c'est à savoir le Real.
Espérativement, c'est génial ce que tu viens de dire.
Oui, je sais, c'est pas mal.
Mais voilà.
Pogba.
Après, je crois que le problème de Haaland, c'est qu'il est très cher actuellement et que l'année prochaine, il y a un accord où on peut l'avoir pour
70,
beaucoup moins cher.
75 millions d'euros.
Voilà. Donc, est-ce que compte tenu des engagements financiers qui ont été pris, notamment par le PSG, est-ce qu'ils peuvent vraiment faire tapis sur Hollande dès maintenant ? Je suis pas... Enfin, ils peuvent, bien sûr, dans l'absolu. Mais après, il faudra quand même justifier qu'on reste dans les clous du fair play financier, comme l'a dit en conférence de presse lors de la présentation de Messi, le président Nasser Al-Khelaifi. Il dit ça, mais si derrière, il remet 150 millions pour un autre joueur, forcément, les gens vont commencer à non seulement pas le croire, mais les autres dirigeants de club, même l'UEFA va se retrouver en porte-à-faux. Donc je les vois mal faire ça. Mais bon. Bon,
les autres clubs parlent maintenant d'un salary cap et non plus un fair play financier.
Comme NBA.
Ce
qui se passe en Espagne avec les 70% qui font que Messi n'a pas pu signer.
L'élément surtout novateur dans ce calcul, c'est-à-dire que ceux qui dépasseraient ce salary cap, en fait, ils payent encore plus
pour la luxury tax.
Voilà. Donc c'est effectivement le moyen de laisser libre cours à ceux qui veulent dépenser de l'argent, mais en les taxant. Ce qui se passe d'ailleurs en Chine, dans le championnat chinois, où il y a eu beaucoup d'investissements faits par les grandes fortunes chinoises sur certains clubs. Et avant la crise. Ah. Et donc, le gouvernement a dit, bon, bah, maintenant, si vous dépassez un certain montant pour les transferts, c'est reversé dans un pot pour le développement du football.
C'est comme la taxe de luxe au Monopoly. Ça va au milieu. C'est ça? J'ai bien compris. Bon, vous parlez de faire Tapie, Xavier, bon enchaînement. Tapie, Bernard Tapie, l'OM. Voilà.
Oh. Ah,
on va pas parler du Paris Saint-Germain ce soir, on va parler de l'Olympique de Marseille qui reçoit Bordeaux demain soir à 21h. Et l'OM qui a frappé un grand coup dimanche dernier en l'emportant à Montpellier 3-2 après avoir été mené 2-0. Est-ce que cette victoire avec ce scénario, c'est la promesse d'une saison fantastique de Marseille?
Messieurs. Oui. À Montpellier, ils ont pratiquement joué à domicile, vous aurez remarqué.
Oui, bah oui, comme souvent, il y avait beaucoup de Marseillais à la Mosson.
Oui, c'est vrai que Marseille, un peu le retour du public. Ouais. Et moi, je crois que Marseille, avec le public, au stade Vélodrome, va faire mal cette année. Oui, je pense que ça sera... Et il faut arrêter de penser que le championnat de Ligue 1, ça sera Paris devant et tous les autres derrière. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de jouer de match. On leur donne le titre dès la semaine prochaine.
Oui, on l'a vu aussi sur les matchs de préparation de l'Olympique de Marseille. Alors, Sampaoli était déjà là, il est arrivé au mois de février dernier.
Il arrive lancé, en fait.
Voilà, exactement. Il a trouvé quelques repères, il a aussi certains cadres sur lesquels il peut s'appuyer. On le voit notamment avec un Dimitri Payet qui, depuis l'arrivée de Sampaoli, est devenu un nouveau joueur. Mais on le voit aussi sur l'effectif qu'il a su bâtir grâce à Longoria, que quasiment tous les postes sont doublés. Et on sait très bien que le système de Sampaoli est exigeant physiquement. Mais à partir du moment où tous tes postes sont doublés avec des joueurs de qualité, tu peux te permettre d'avoir ce style de jeu-là offensif et qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité, surtout toute la saison, même s'il y aura la Coupe d'Europe qui sera aussi à prendre en compte et qu'il faudra jouer du côté de l'Olympique de Marseille. Mais aujourd'hui, il l'a bâti avec un effectif, même s'il manque peut-être encore sur le poste de piston droit une ou deux recrues.
Oui, il y a toujours Lirola qui est dans les tuyaux.
Ou Daniel Vaz qui ne sont pas encore présents, mais qui devraient, enfin, on l'espère pour l'Olympique de Marseille, qui devraient être présents. Mais pour le reste, on va dire que l'effectif est assez complet et assez compétitif pour jouer sur tous les tableaux nécessaires et montrer le style de jeu qu'on a pu voir face à Montpellier et lors des matchs de préparation aussi.
Là, le droit au but, il est vraiment respecté avec Sampaoli, clairement.
Hein. Exactement, et il y a cette passion parce qu'on sait très bien que voilà, Marseille est un club à part, on sait très bien que les supporters sont à part et on l'avait vu avec Bielsa. Sous Bielsa, Marseille, c'était la folie, les supporters étaient heureux, il y avait des résultats, même si au final, tu n'as pas de qualification pour la Ligue des Champions, les supporters ont apprécié ça. Et on sait très bien que Sampaoli, on ne va pas le comparer à Bielsa, bien évidemment, mais c'est la même philosophie. Hein. C'est un entraîneur aussi passionné et qui aime voir son équipe qui est proactive et on l'a vu sur les premiers matchs. Maintenant, ça demandera confirmation parce qu'on ne va pas s'emballer sur le premier match de la saison. Mais sur ce
non, mais il donne le là quand même.
Exactement. Et c'est dans la continuité de la saison dernière. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut être optimiste pour la saison de l'Olympique de Marseille.
Oui, Xavier, sur Sampaoli, justement, on nous vend une sorte de Bielsa sans glacier avec des tatouages. Est-ce que c'est pas un peu caricatural?
Lui-même, il se place dans l'héritage de Bielsa. Alors, il est pas le seul, hein, mais c'est vrai que c'est la même philosophie, c'est cette débauche d'énergie.
Il l'a comme modèle, bien sûr.
Qui effectivement fait que les joueurs courent tout le temps partout.
Oui, et puis du dépassement de fonction, les défenseurs centraux qui se retrouvent liés, ça part dans tous les sens.
C'est quand on regarde jouer Leeds, on a un peu la même chose. Et Guardiola s'en inspire aussi, même si lui, il a un peu plus cadré le modèle. Donc c'est une philosophie de jeu qui plaît aux supporters, qui a plu effectivement, comme le disait Dominique Bailly, à l'OM à l'époque, à Marseille, à l'époque de Marcelo Bielsa. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour le moment. Après, les questions qu'on avait à l'époque de Bielsa, ce qui s'est passé, c'est que les joueurs étaient rincés au bout de tiers de la saison. Est-ce que cette fois-ci, il saura aller au bout de la saison. Pour le moment, on n'a pas tellement de références en Europe, hein, avec ce qu'a réussi à faire Sampaoli, puisqu'il faut rappeler qu'avant, il était sélectionneur du Chili. Ensuite, il est venu à Séville, mais il n'a fait qu'une saison. Donc, c'était difficile de tirer des enseignements. Il est parti entraîner l'Argentine. Bon, ça a été une foirade, mais bon, c'était compliqué. Et puis depuis, il était au Brésil, où là, tu l'as vu travailler. Quoi,
avec Santos, c'est
l'Atlético
Mineiro.
Ça a été plutôt intéressant, mais dans un contexte différent.
On a encore eu droit au fameux Sampaoli time, hein, comme le Ferguson time. Donc voilà, l'OM qui marque des buts dans le dernier quart d'heure, ce qui est quand même paradoxal. Vous me dites que ça demande énormément d'énergie, ce jeu, mais enfin, ils finissent toujours par planter des buts dans le dernier quart d'heure. Là, c'est Payet qui en met deux à Montpellier. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène assez dingue, quoi?
Non, mais c'était logique. En fait, c'est là toute la beauté du jeu des Sampaoli. Déjà, juste pour commencer, c'est vraiment l'entraîneur qu'il fallait à Marseille, parce que les peuples marseillais, on le sait, c'est un peuple extrêmement exigeant et extrêmement les supporters passionnés. Donc il fallait vraiment leur donner une personnalité comme ça. Et dans ces matchs contre Montpellier, qu'est-ce qui a changé? C'est les changements des Sampaoli qui fait entrer Benedetto. Ça fait que du coup, Payet est obligé de se replacer. Et c'est là qu'on mène, finalement, on voit ces buts, c'est du but, en fait, des Payet. Alors qu'au début du match, ils ont essayé à plusieurs tentatives, mais c'était un peu coincé. Donc je pense que c'est tout ça. Et c'est là, justement, qu'on voit les grands entraîneurs. Quand ils arrivent à influer quelque chose de très très important à ces équipes-là, de très passionnant, et voilà, au match où on arrive,
ils transcendent ces joueurs.
Ouais.
Oui, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que
on est dur avec eux. Il les fait flipper.
Ils transcendent ces joueurs, ils les aiment.
Payet en est la preuve. Hein. Voilà. Regardez physiquement. En fait, il a retrouvé les Payet.
Il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe qui ont besoin d'être aimés, et il les transcende. C'est étonnant à voir.
Oui, parce qu'on l'avait vu avec Villas-Boas, on a vu Payet qui s'était pris la tête avec lui, qui ne faisait plus les efforts sous Sampaoli. Il a su adhérer aussi à son projet.
Il n'a pas son charisme, en fait. C'est aussi, je pense, une question de charisme. Évidemment, c'est un bosseur, Sampaoli. Il sait coacher une équipe, mais il a certainement ce charisme qui fait que ses joueurs, ou en tout cas ses leaderships, les joueurs les suivent.
Mais là, ils adhèrent aux efforts qu'il faut
faire. La dernière fois, on parlait, tu nous posais une question à Justo Tritre, quel va être un peu les clubs qui va surprendre, finalement, qui va être la surprise. J'ai dit Marseille, on ne peut pas le dire, parce que Marseille, ce n'est jamais vraiment une surprise. C'est un grand club. Mais je pense que Marseille est l'un des clubs les mieux positionnés pour monter. On en est qu'au début de la saison, mais ce qu'on voit est déjà très bon, et les mercato est clairement réussi. Bah
après, voilà, il y a le contexte qui joue en sa faveur quand même, parce qu'il a pu renouveler ce groupe avec 11 joueurs qui étaient en fin de contrat, à part Jordan Amavi qu'ils ont prolongé, tous les autres sont partis.
Sur lequel il compte pas trop d'ailleurs.
Oui, il y en a plein qui sont partis, Cuisance, Germain, Thauvin, Kawi, etc.
Qui coûtaient cher.
Donc certains qui coûtaient cher, donc il a pu renouveler cet effectif avec des joueurs qu'il a choisis. Et donc des joueurs qui sont venus titiller ceux qui pouvaient être titulaires. Aujourd'hui, si Payet ne fait pas l'affaire, alors là, il n'aura aucun souci à le sortir. Donc, c'est sa méthode, et c'est le contexte qui fait qu'il a les joueurs pour éventuellement en mettre d'autres sur
c'est
le banc.
Alors, faisons un petit focus sur Dimitri Payet. C'est un peu le Messi olympien. Je dis ça sans ironie. Je trouve que tous les deux, ils ont 34 ans et quand même une certaine forme de génie dans le pied. Bon, il y en a un qui le sort plus souvent la lampe que l'autre. Deux buts décisifs à Montpellier. Comment est-ce que vous expliquez que Sampaoli réussisse à faire avec Payet ce que Garcia et Villas-Boas ont eu plus de mal? On a l'impression que là, il est fit, on va plus tailler sur son poids, il est investi, voilà, on a l'impression vraiment qu'il a pris la mesure de l'OM. Pourquoi ça marche avec Sampaoli là où ça marchait pas avec les autres?
Après, c'est une question aussi de management et de gestion des égos, et on sait très bien que Payet au début avec Garcia, ça se passait très très bien, et sur la fin, il y a eu quelques conflits et finalement Payet a lâché. Et on sait très bien que Payet est un joueur comme ça, s'il ne se sent pas aimé par son entraîneur ou s'il ne sent pas vraiment que son entraîneur va tout faire pour lui, il va se mettre de côté, il va plus faire les efforts. Malheureusement, on peut le regretter parce que ça peut être un manque de professionnalisme. Mais à partir du moment où il a un entraîneur qui compte sur lui et qui le met dans les meilleures dispositions, on le voit avec Sampaoli depuis qu'il est arrivé, c'est un nouveau joueur et c'est un joueur qui assume ce rôle de leader technique et aussi offensif de l'Olympique de Marseille.
Et c'est pas l'histoire aussi avec Thauvin à une époque qui est venu un
peu ils se sont embrouillés.
C'est vrai contexte.
Il y avait deux coqs dans la basse-cour. Voilà.
C'est des joueurs qui ont un talent fou mais qui l'exploitent quand même rarement, mais quand ils l'exploitent, ils sont extraordinaires.
On voit les différences,
extraordinaires. Et c'est les entraîneurs qui arrivent à motiver, à les retourner, à motiver ces joueurs, ce qui devrait être plutôt quand on a un talent tel, une habitude.
Après, il y a aussi eu le rappel de l'ancien président, mais qui est toujours qui a toujours l'oreille du propriétaire, Franck McCourt, savoir Hérault, qui avait dit on n'hésitera pas à mettre de côté certaines vaches sacrées s'il le faut, Mandanda et Payet.
Payet, ils lui ont fait un contrat
à vie.
Après avoir fait cette prolongation de contrat, ils ont dit finalement, peut-être que ces contrats, on va pas en tenir compte. Et donc, on trouvera des solutions pour. On sait qu'à Marseille, ils avaient trouvé des solutions pour se débarrasser de certains joueurs. Donc il y a aussi cette petite pression qui a été mise. et qui l'oblige effectivement à tenir son rang.
Payet qui fonctionne sur courant alternatif depuis le début de sa carrière, est-ce qu'il peut faire une saison selon vous en courant continu, un peu finalement comme avait fait Ben Arfa, lui aussi vraiment artiste intermittent du spectacle lors de la saison à Nice avec Claude Puel, il avait fait toute la saison au taquet. Est-ce que Payet peut nous offrir ça cette saison?
Ben on l'a vu sur la dernière partie de saison avec l'Olympique de Marseille sous Sampaoli. Là, sur le début de saison, on le voit même affûté physiquement. On sent que c'est un joueur aussi concerné. On le voit dans la presse aussi. Visiblement, il a adhéré au projet. Il on va dire, fédère un peu ce collectif autour de lui parce qu'on sait très bien qu'il a une importance grandissime dans cette équipe-là. Et aujourd'hui, s'il reste dans cette disposition mentale, parce que c'est une question de mental concernant Payet, aujourd'hui, ce ne sera pas une question de physique. On voit qu'il est affûté. S'il continue à travailler, il aura le physique. La qualité technique, il l'a. C'est une question de mental. Et si aujourd'hui, mentalement, Sampaoli arrive à le garder concerné et à lui vendre ce projet pour aller au bout, pour aller dans cette compétition européenne et ensuite aller chercher une qualification en Ligue des Champions, on peut s'attendre à avoir un grand Payet.
Ça sera une bonne chose pour l'Olympique de Marseille qui aura sans doute besoin de lui pour espérer atteindre ses objectifs. Enfin, une qualification. Pour la Ligue des Champions qui est économiquement très importante parce que là aussi on l'a dit pour Paris mais Marseille est censé quand même vendre un petit peu des joueurs, d'ailleurs Camara, Calaitachar pour l'instant, on ne sait pas trop où ça en est, mais il va falloir aussi eux qui vendent un petit peu des joueurs. Dans un petit instant on va parler de l'autre Olympique qui va un peu moins bien, enfin en début de saison, c'est l'Olympique Lyonnais qui se déplace à Angers demain à 13h et c'est pas évident. Dans un petit instant on parle de ça sur RTL, si on refait le match.
On refait le match sur RTL
avec Florian Gazan.
Jusqu'à 20h, après ce sera RTL Foot avec Eric Silvestro et Giovanni Castaldi. Vous suivrez évidemment à 21h le PSG Strasbourg pour le compte de cette deuxième journée du championnat de Ligue 1. Le parc où on se rendra dans une petite dizaine de minutes avec Philippe Sanfourche pour la présentation des nouvelles recrues, évidemment celle de Lionel Messi. Petit tour par la Ligue 2, ça c'est Christian Olivier qui m'envoie des SMS pour me dire faut en parler. Et ben Christian, je veux bien en parler, mais malheureusement ça a commencé à 19h et il y a 0-0 sur toutes les pelouses, donc moi je peux pas faire le boulot à la place des buteurs, il va falloir qu'il se bouge un petit peu. En tout cas, pour l'instant, Toulouse a gagné cet après-midi à 15h face à Bastia, se retrouve en tête provisoirement du championnat de Ligue 2. On a parlé de l'OM, messieurs et mademoiselles, on va parler de l'autre Olympique, l'Olympique Lyonnais qui a démarré sa saison avec son nouveau coach Peter Bosz, pas beaucoup mieux finalement qu'elle l'avait terminé avec Rudy Garcia. Un nul poussif arraché à domicile face à Brest, un partout. Est-ce que Lyon vous inquiète ?
Non, pas forcément. On est encore en tout début de saison. Il y a eu un nouvel entraîneur qui est arrivé, qui essaye aussi d'installer et de mettre en place un nouveau système de jeu, une autre philosophie qu'on avait pu voir sur Rudy Garcia. Il y a aussi des changements de joueurs. Tu as perdu Memphis Depay, qui était quand même ton meilleur joueur de la saison dernière, que ce soit dans le système autant que buteur, mais que passeur décisif aussi. Et il y a un renouvellement d'effectifs qui, malheureusement, aujourd'hui, est peut-être encore un petit peu en dessous de ce qu'on pouvait attendre d'un club comme l'Olympique Lyonnais, qui a quand même aussi des difficultés financières. Donc aujourd'hui, on n'a pas, on va dire, un écosystème autour de cette équipe plat qui lui permet de pouvoir être ambitieux maintenant. On sait très bien que ce que veut mettre en place Bosz et ce qu'il a fait du côté de l'Ajax ou même en Allemagne, ça demande du temps, il faut que les joueurs l'assimilent. Certains joueurs l'ont dit aussi dans la presse que pour l'instant, ils sont en train d'encaisser la charge de travail et ils sont en train d'assimiler cette nouvelle technique, mais il va falloir un peu de temps pour pouvoir juger cette équipe lyonnaise. Mais
est-ce qu'il a les joueurs pour le style de jeu qu'il veut mettre en place? Parce que c'est bien pratique, mais un entraîneur, il doit faire avec ce qu'il a et imaginer faire des trucs avec des gens qu'il a pas, c'est un peu compliqué. Donc oui, c'est la question qui se pose.
Il y a quand même des joueurs de qualité dans cette équipe-là, Aouar est encore toujours présent, on a récupéré un Moussa Dembélé qui semble enfin aussi prêt pour assumer ce rôle de numéro 9 dans cette équipe parce que Memphis Depay n'est plus présent. Il y a une jeune génération qui arrive, qui pousse, mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'exigence, moi je pense du côté lyonnais, on ne pourra pas l'avoir en tout début de saison, il faudra vraiment attendre jusqu'au mois de décembre à peu près pour voir si ça a pris, si la greffe a pu prendre. Mais si aujourd'hui on tombe à bâton rompu sur Bosz en disant que sa technique ou sa philosophie ne fonctionne pas, malheureusement c'est pas le mettre dans les meilleures conditions.
Attendre jusqu'au mois de décembre, ils n'avaient pas attendu jusqu'en décembre pour Sylvinho.
Sylvinho, sa première expérience, on a vu qu'il allait droit dans le mur. On sait très bien que Bosz a quand même un passé derrière lui avec l'Ajax qu'il a pu nous montrer avec cette équipe-là.
Oui, avec l'Ajax seulement, parce qu'après avec les autres, ça n'a pas trop marché. Sur les premiers mois, ça n'a pas été une réussite.
Oui, c'était plutôt pas mal sur les débuts, après ça n'a pas été sur la durée. Mais aujourd'hui, moi je suis convaincu que cet entraîneur-là peut apporter quelque chose à cette équipe lyonnaise, mais ça demandera, comme j'ai dit, du temps et il faudra être patient.
Je ne sais pas s'il l'aura ce temps-là, parce que je pense que le président Aulas voudra avoir des résultats relativement vite.
Mais pour ça, il faut peut-être mettre les moyens aujourd'hui, quel joueur on lui a apporté, parce qu'il a demandé aussi certains joueurs.
Mais voilà.
Et il risque encore de perdre Maxwell Cornet qu'on annonce sur le départ, donc aussi on lui enlève aussi des
17 millions
du côté de Burnley.
Est-ce qu'il veut lui vraiment le garder? C'est pas sûr non plus.
Aussi.
Mais bon, pour Peter Bosz, c'est une situation très compliquée, parce qu'il vient effectivement, il est présenté en grande pompe pour le renouveau lyonnais, etc. Et puis on lui fait miroiter des joueurs, on lui a dû dire pas de problème, on prendra des joueurs, on te consultera pour prendre des joueurs, mais d'abord il faut qu'on vende. Et là, pour le moment, il n'y a personne qui
mais
part.
Alors justement, enfin, c'est là où c'est incompréhensible, c'est que le président Aulas ne cesse de répéter que l'OL va bien financièrement, on n'est pas obligé de le croire, parce qu'il le dit, et je cite qu'il n'a pas besoin de vendre pour acheter. Bon, bah alors pourquoi il n'achète pas?
Oui, alors, voilà, je vais revenir sur un point.
Ça, c'est la ménagère qui est en moi qui s'exprime.
Non, mais la dernière fois, je parlais justement de l'effectif, j'étais très, très, très optimiste par rapport aux achats de l'OL, etc. Et les informations que j'ai eues récemment, c'est qu'il y a effectivement des difficultés par les clubs l'OL, parce que des propositions, ils en ont, d'acheter certains joueurs. Après, évidemment, l'argent, ils peuvent l'avoir, parce qu'il y a par des moyens de financement, etc. Mais comme l'OL est une société cotée en bourse, donc ils ne le font pas. Et là, les transferts qui actuellement un peu on entend, c'est Shaqiri, pas Shakira. Et en fait, oh, c'est tellement nul cette blague.
Non, 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 voilà. On a préféré pas relever Cindy apparemment.
Non, mais en fait, et voilà, il faudrait pas que ça arrive avec ces transferts qui traînent, même si on est, il manque encore du temps pour ces mercato, tout peut arriver encore. Mais il faudrait pas qu'il arrive la même chose qu'avec Onana. De l'Ajax, avec les transferts qui tombent à l'eau et une bande de supporters très déçus de la situation. Donc là, je commence vraiment à m'inquiéter par rapport à l'OL et j'ai parlé avec quelques agents à l'étranger, je leur dis, mais par rapport à la France, ils me disent, non, mais c'est la France tout entière, en fait, la Ligue 1, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui se font et ils ont des difficultés.
Enfin, Marseille a fait quand même pas mal de joueurs. Tout le monde a recruté, finalement, sauf l'OL. Et puis là, vous parliez de Shaqiri, le Suisse, bon, qui nous a fait beaucoup de mal à l'Euro. Mais bon, on parle de lui pour remplacer Memphis Depay, mais on parle donc de Shaqiri qui est remplaçant à Liverpool depuis trois ans, qui a mis 12 buts et 13 passes décisives en 3 saisons pour remplacer Memphis Depay qui va être titulaire à Barcelone. Est-ce que c'est pas quand même un symbole d'ambition à la baisse?
D'échec ou défaite?
C'est des choix de clubs de deuxième catégorie européenne aujourd'hui, ce qui est devenu Lyon depuis déjà 2-3 saisons d'ailleurs, ils ne sont même plus en Ligue des Champions. On était là à s'enorgueillir quand ils avaient pris Traoré, quand ils avaient pris ces joueurs-là, même Fils de Paille, c'est un joueur qui était en échec à Manchester United, donc ils ont réussi à le relancer. Mais bon, c'est un extraordinaire joueur, mais est-ce que c'est un top mondial? J'en suis pas convaincu. Donc vous avez à Lyon aujourd'hui un vrai problème pour attirer les grands joueurs, un problème qui se renforce en plus puisque ils sont plus en Ligue des Champions. Et ce que je ne comprends pas, moi, c'est pourquoi est-ce que Lyon ne joue pas plus sur les jeunes formés au club?
La formation.
Un vrai savoir-faire dans ce
Peter
domaine.
Peter Boss, il en a mis le week-end dernier, il n'a pas eu le choix, mais bon, ils sont encore un peu tendres.
Voilà. Est-ce qu'ils ont le niveau aussi?
Alors, je pense qu'ils ont le niveau, mais après, il faut se donner le temps de les laisser s'aguerrir. Un garçon comme Aouar, il y a un moment où il a commencé aussi. On savait qu'il était très bon, mais il l'a confirmé. Alors, est-ce que maintenant il plafonne ou pas? Peut-être. Mais voilà, ce sont des joueurs qui ont eu un moment à un autre, on les a lancés. Et ça a marché. Et je pense que moi, de l'avenir de Lyon aujourd'hui, il est là, dans son centre de formation. Il faut qu'il fasse confiance aux jeunes. Et Peter Bosch, par ses références de technicien passé par l'Ajax, normalement, il doit être capable de faire monter une équipe comme ça.
Il ne faut pas perdre trop de points en route parce que, effectivement, le temps c'est bien, mais il faut quand même marquer des points. Lyon a besoin d'aller aussi en Ligue des Champions. Ça fait quand même 2 saisons qu'ils n'y vont pas, ce qui est quand même dramatique pour ce grand club français. Mais si on laisse trop de temps à Lyon, les autres, pendant ce temps-là, eux, ils vont prendre des points. Donc on va où là?
Oui, mais après, on parle d'un effectif aujourd'hui qui a perdu de la qualité. Et Xavier le disait justement, il n'y a pas de top players, mais si tu ne joues pas la Ligue des Champions, tu ne pourras pas attirer des top players. Maintenant,
exactement,
on voit l'exemple marseillais. Tu n'as pas fait venir des top players, pourtant, tu arrives à mettre en place quelque chose d'intéressant. Donc aujourd'hui, je pense que le problème de l'Olympique Lyonnais se trouve surtout au niveau du recrutement et du directeur sportif qui est présent depuis un petit moment, Juninho, qui lui aujourd'hui n'arrive pas à tirer de bons joueurs ou des joueurs complémentaires dans son effectif.
On
le voit aujourd'hui.
On peut pas dire que Bruno Guimaraes, Marcos Paqueta sont pas des mauvais.
Lucas Paqueta, bien sûr, mais là on reste sur
Par contre, sont tous des joueurs qui évoluent au même poste.
Oui, mais
alors ça, je sais pas comment Ola ça validé ça.
Mais il y avait Jean Lucas aussi,
Marcos Paqueta, Thiago Mendes, Jean Lucas, qu'ils ont depuis revendu à Monaco. Et Bruno Guimaraes, il a pris 4 joueurs pratiquement dans le même registre.
Et surtout,
pratiquement.
Moi, ce que je pointe du doigt, c'est que c'est une filière brésilienne. On sait très bien que du côté du Brésil, il a son réseau là-dessus. Maintenant,
et
sur la partie
mais
européenne,
pour les restes, c'est
exactement, on
plus
voit que c'est
la
plus.
À la limite, qu'il aille chercher au Brésil un défenseur central ou un défenseur supplémentaire, qu'il aille chercher un avant-centre ou un attaquant, pourquoi pas. Mais il a pris 4 milieux de terrain. Alors, ok, bah, c'est des joueurs talentueux.
C'est un milieu brésilien, il connaît que les milieux brésiliens. Il en fallait garder Chris ou Cassapa pour récupérer un défenseur central, parce qu'apparemment, ils ont un manque à ce niveau-là.
Il a en plus comme produit maison Maxence Cacré qui est très bon et bien sûr Oussem Aouar. Alors là, il y a des choses qui m'échappent effectivement et je pense que le problème à Lyon aujourd'hui, il est plus dans le recrutement effectivement dans le rôle de Juninho plutôt que dans celui de l'entraîneur qui doit composer avec ce qu'on lui donne.
Et quand il y a eu le feuilleton du gardien de but, je suis pas sûr que la priorité c'était le gardien de but à Lyon.
La demande de l'entraîneur, c'est quand même l'entraîneur qui voulait avoir un gardien qui sait jouer au pied un peu plus qu'aujourd'hui Lopez.
Mais est-ce que c'était vraiment la priorité
Ça, on ne sait pas. En tout cas, ils ont aussi recruté.
Non, mais ils ont toujours ça dans leur esprit. Et je pense que tout touche vraiment les points les plus importants, c'est ça. Moi, je pense que la baisse d'ambition de l'OL, parce qu'il faut toujours se trouver un coupable, on est là pour ça, fait, c'est plutôt Juninho, oui. Parce que, en fait, c'est un côté effectif. Et effectivement, il n'y a pas énormément d'argent au niveau du club, mais il y a des clubs qui se débrouillent quand même à avoir une équipe compétitive.
Et surtout, il faut se poser cette question au bout d'un certain temps, quand tu changes trois fois d'entraîneur et qu'à chaque fois ça ne fonctionne pas, il faut peut-être se remettre en question.
Peut-être
et si tes entraîneurs n'ont pas aussi les bons moyens pour aller au bout de leurs
objectifs. Donc c'est peut-être le directeur sportif le problème.
Ça peut être. Non, ça peut être.
C'est ce qu'a dit Rudy Garcia. Rappelez-vous cette interview où il dit Juninho a marqué des coups francs contre son camp. Donc c'est pas nous qui l'inventons. Ça a été déclaré par l'ancien entraîneur de Lyon.
En tout cas, il est sous pression parce que même Peter Bosz commence à dire t'es bien gentil, mais j'aimerais bien avoir quelques joueurs histoire de tenir les ambitions.
Oui, après, il est
du
en
club.
Train de se rassurer en disant dès que l'entraînement se termine, on prend des cafés ensemble, tout va bien, la vie est belle et tout. Mais enfin bon, maintenant, si les résultats ne sont pas là.
Finira peut-être par prendre des tisanes, comme on disait à l'OM. Il est 19h30 passé, on va partir du côté du Parc des Princes parce que normalement c'est à cette heure-là, suivant ce qu'on nous a annoncé, mon cher Philippe Sansfourche, qu'on va avoir la présentation de la Pulga, la puce Lionel Messi.
Ah bah manifestement on est moins prompt à prendre tout le monde de court sur les horaires, sur la présentation des joueurs que sur le marché des transferts. On va faire durer un peu le plaisir encore du côté
c'est
du Paris Saint-Germain, puisque pour l'instant ce sont les joueurs de Strasbourg qui sont venus reconnaître la pelouse.
C'est le retour de Kevin Gamero, c'est pour ça.
Kevin Gamero qui pourra s'enorgueillir d'avoir joué au même poste et dans le même club qu'un certain Lionel Messi. Le fait est que pour l'instant les joueurs de Strasbourg sont toujours dans le rond central, le parc qui se remplit petit à petit. On est déjà environ à 30 000 personnes sur les 48 000 qui garniront tout à l'heure plein comme un œuf ce Parc des Princes. Ça chante beaucoup, c'est le retour des ultras, c'est le retour du CUP dans la tribune Auteuil. On a déjà entendu beaucoup de chants, il y a de l'enthousiasme, il y a du bonheur. On attend maintenant que Lionel Messi et ses acolytes.
Ah oui, vous nous tenez au courant, Philippe, dès qu'il arrive, quand même, qu'on loupe pas ça, c'est quand même un moment historique pour la Ligue 1. Puisque je vous tiens, Philippe, on parle de l'OL, qui serait intéressé par Lévin Kurzawa, latéral du PSG, qui n'est pas dans le groupe ce soir, qui affronte Strasbourg, et on nous a dit que c'était un choix de Mauricio Pochettino. Est-ce qu'il pourrait prendre la direction du Rhône, ce bon Lévin ?
Ce qui est certain, c'est que ça arrangerait évidemment les affaires de la direction sportive du Paris Saint-Germain, même si on se souvient que Lévin Kurzawa avait quand même re-signé la saison passée. Donc c'est qu'il y a quand même une forme de confiance qui est accordée à ce garçon qui malheureusement est souvent blessé, et quand il enchaîne quelques bons matchs, c'est rarement sur la longueur. Effectivement, il faut dégraisser dans cet effectif. Et j'ai presque envie de dire que c'est plus sur le plan de la gestion humaine, managériale du groupe qu'il faut dégraisser que sur le plan financier, parce que vous aurez bien compris qu'on est quand même un petit peu sur une carte blanche pour le Paris Saint-Germain cette saison, et que c'est pas le salaire de Lévin Kurzawa qui va alléger la masse salariale et qui va changer la donne du point de vue du fair play financier.
Peut-être un peu plus celui de Thilo Kerrer et encore. Michel Baker, je pense qu'il était vraiment payé en tiki resto. Philippe, Nasser El Khelaïfi, vous étiez à la conférence de presse, a annoncé, il l'a dit dans une interview à l'équipe, que le mercato parisien était peut-être pas terminé. Alors là, on est quand même tombé de la chaise. Moi, j'étais sur un tabouret. Est-ce que Paul Pogba, qui a marqué 4 passes décisives aujourd'hui avec Manchester United, qui est d'une forme olympique, est-ce que ce serait encore possible ?
Ça paraît complètement hallucinant, mais comme paraissait hallucinant le fait de faire venir Lionel Messi en plus de Sergio Ramos, de Wijnaldum et de Donnarumma et d'Hakimi. Tout est possible, il me semble. On a bien compris depuis maintenant 3-4 mois avec la stature qu'a pris Nasser El Khelaïfi, avec le fait que ce club est adossé à un actionnaire État qui est à un an et demi de la Coupe du Monde, tout est possible. Et Paul Pogba, le plus important, c'est la volonté aussi du joueur. Et je pense que Paul Pogba n'attend que cela. Donc ça fait partie des options qu'il ne faut pas écarter. Ce serait encore complètement fou, mais pas à écarter.
Bah, ça nous ferait une nouvelle présentation au Parc des Princes, hein, Philippe, vous allez devenir spécialiste.
Hein. Oui, ce serait surtout complètement dingue de voir un milieu avec Pogba, Verratti et Wijnaldum, en plus de Messi, Mbappé et Neymar. Là, je pense qu'on serait vraiment dans une équipe.
Rassurez-moi, on joue quand même à
PlayStation.
On joue à combien là au PSG?
C'est ce qu'on disait, Xavier. C'est par rapport justement à la gestion du groupe, parce que si vous vous retrouvez avec certains joueurs du calibre, parlait d'Angel Di Maria tout à l'heure, ça paraît impensable d'avoir un joueur comme Angel Di Maria remplaçant sur la plupart des matchs, et c'est pourtant ce qui peut se profiler.
Ouais. Bon, Philippe, vous nous tenez au courant, hein. Dès que Messi arrive, vous intervenez, hein. Vous avez la priorité, vous me coupez sans vergogne, il n'y a aucun souci, vous me taclez à la Sergio Ramos, il n'y a pas de problème, je ne vous en voudrais pas.
Ça sera fait.
À tout à l'heure, Philippe.
RTL, on refait le match.
On refait le match, on continue. Cindy, vous avez une petite info sur Lévin Kurzawa ?
Aussi. Lévin Kurzawa, normalement, il n'ira pas du côté de Lyon. Et par rapport à Pogba, parce que c'est vrai qu'on entendait des très fortes rumeurs comme quoi il irait au PSG. Moi-même, je l'ai publié très vite. Mais il y a quelques semaines. Mais aujourd'hui, les PSG ne seraient plus intéressés par Pogba. Apprendre avec des pincettes, parce que tout peut arriver avec les PSG. Mais voilà, selon mes informations, pour l'instant, là, aujourd'hui, non.
Bon, ceci dit, au niveau mercato, les supporters parisiens ont été suffisamment gâtés. Ça sert que les Lyonnais doivent les regarder avec beaucoup d'envie. On a parlé de l'OM, on a parlé de Lyon. J'aimerais quand même qu'on touche un petit mot de l'AS Monaco, hein, qui bataille pour se qualifier en Ligue des Champions. Prochaine étape, mardi, contre le Shakhtar Donetsk. Mais qui laisse des plumes en championnat. Nul à Louis II contre Nantes le week-end dernier. Défaite hier soir à Lorient. 1-6 en 2 matchs. Est-ce qu'il y a matière à douter de Monaco cette saison ?
C'est une équipe qui est décevante en ce début de saison. Alors peut-être qu'ils misent tout sur la qualification pour la Ligue des Champions. Ça, c'est possible. Et qu'ils avaient déjà la tête à mardi. En tout cas, hier, il y avait de grosses carences, en particulier sur Jacobs, qui a paru complètement dépassé par les événements, qui est très fautif, évidemment, sur le pénalty. Moi, je trouve que cette équipe, elle a une force de frappe en début de saison assez limitée.
Ouais, avec Ben Yedder qui est toujours remplaçant en championnat, donc il y a un petit problème, Ben Yedder.
Ouais, il a repris un petit peu plus tard aussi suite à la participation à l'Euro, et on sait que c'est une équipe
qui a pas beaucoup joué à l'Euro. Hein.
Oui, mais c'est une équipe qui a fait sa préparation plutôt que les autres, hein, pour préparer bien évidemment ces matchs de Ligue des Champions, matchs qualificatifs de Ligue des Champions, et c'est aussi là-dessus où il faut peut-être pas pointer du doigt, mais vraiment s'attarder, puisqu'aujourd'hui, on a vu sur la composition d'hier, il y a eu beaucoup de remplacements. Il n'y a eu pas des joueurs qui ont débuté et qui ne seront pas forcément titulaires tout au long de la saison. Et si
ils ont un bel effectif quand même, Monaco.
Oui, bien sûr. Oui, mais on a vu l'effectif de la saison dernière qui a très bien terminé. C'était une équipe qui changeait quasiment peu. Mais c'était un groupe et un 11 titulaire qui était très impressionnant, et on l'a vu sur ce qu'ils ont pu faire la saison dernière. Et je pense aujourd'hui ils seront armés aussi pour faire la même chose cette année. Et ça demandera aussi confirmation, et on sait très bien que dans le football, le plus dur, c'est de confirmer. Aujourd'hui, ça va prendre avec des pincettes, puisqu'il y a cette préparation et cette Ligue des Champions qui vampirise un petit peu cette préparation, ce début de saison.
Et qui pompe de l'énergie.
Aussi.
Mais clairement, pour répondre à la question de Florian Gazan, c'est pas inquiétant. Non, mais c'est pas inquiétant. C'est le début de saison. La priorité de Monaco, c'est quoi ? C'est d'aller en Ligue des Champions. Donc la priorité, c'est de se qualifier. Ils ont éliminé le Sparta de Prague. Là, ils vont avoir le Shakhtar Donetsk. Ça va être un adversaire plus difficile, qui est souvent dans les phases de poule. Et donc là, pour le match hier, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme l'a dit Dominique Baïf, il avait laissé Badiachile, Ben Yedder, Golovin, Caio Henrique sur le banc. Donc presque la moitié de l'équipe la moitié des titulaires étaient remplaçants. Et par contre, ils titularisent un garçon comme Boadou qui vient d'arriver, Jean Lucas qui vient d'arriver. Jacobs. Donc voilà, et Jacobs aussi. Donc il fait une défense à 3, ce qui est pas habituel, avec en plus dans le lot des latéraux, Sidi B qui se retrouve en 3e centrale, enfin c'est vraiment pas sa place. Donc clairement, c'était un essai. Ça n'a pas été concluant, le résultat l'a donné, mais je pense qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter pour le reste de la saison. On est en début de saison, on est dans une période avec un objectif prioritaire, la qualification pour la Ligue des Champions. Les points perdus en championnat, c'est embêtant, mais à moyen terme, ça va s'estomper.
Je suis très optimiste, moi, par rapport à Monaco. Je trouve que Kovac va vraiment faire son job.
Autant que pour Lyon ou pas
oh, c'est vache. Mais autant que pour l'Italie, hein, si tu te souviens. Oui. Non, mais en fait, par rapport à Kovac, moi, là, je pense que c'est un très bon entraîneur. Je n'ai aucun doute par rapport à ça. Tu parlais, il y a quelques instants, en parlant d'une défense à 3, mais il fallait vraiment mettre une stratégie offensive. Il ne faut pas oublier que Lorient a mis vraiment un bloc. En fait, Monaco, pendant tous les matchs, vous avez pu les remarquer, ils avaient les ballons, en fait. Ils avaient vraiment les contrôles du ballon.
C'est un classique de la Ligue 1 quand une grosse équipe va chez une petite.
Et effectivement, on l'a vu avec Monaco, on l'a vu avec les PSG, plein d'autres équipes. Donc, ne nous arrêtons pas, justement, sur ces matchs pour faire une analyse sur cette équipe dans la saison. Moi, je pense que c'est juste un petit accro. C'est les débuts de la saison. J'ai aucun doute qu'ils vont finir très haut au sein du classement.
On assume un retard en championnat pour gagner la Ligue des Champions, en fait. Enfin, gagner la qualification, en tout cas. Ça sera un peu la stratégie.
Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, ils se sont battus toute la saison dernière pour revenir et essayer de se qualifier pour cette Ligue des Champions. Et là, cette année, ils ont deux tours préliminaires. Donc, on mise tout pour valider cette qualification Ligue des Champions qui rapportera aussi de l'argent. Donc, c'est aussi très important pour cette équipe-là. Et donc, on met toutes ses chances. On laisse au repos certains cadres pour les premiers matchs de championnat. Parce qu'on sait très bien qu'on aura la possibilité de les retrouver. Surtout si on revoit le Monaco de la saison dernière. Il ne faut pas oublier que cette équipe-là a tenu la dragée haute à pas mal d'équipes. Et il nous a vraiment impressionnés collectivement.
C'était la meilleure équipe de perdre. Ce pari, il peut être perdu, évidemment, si la qualification en Ligue des Champions. Que vous prenez et vous êtes reversé en Europa League, ça c'est le
bien
risque.
Sûr. Mais la Ligue des Champions, c'est le meilleur moyen pour exposer tes joyaux. Or le projet de Monaco, c'est d'abord, c'est aussi de faire du business, hein, on le sait très bien. Donc pour tu vends mieux si tes joueurs, ils sont dans la plus belle des compétitions, ils sont dans la plus belle vitrine, la mieux éclairée. Donc se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est gagner les primes de participation, mais c'est aussi mettre en avant ces joueurs qui pourront retransférer ensuite. Donc c'est vraiment vital pour eux d'y être. Et s'ils perdent à Lorient, c'est vraiment anecdotique pour le moment.
Pour l'instant. Oui, pour l'instant.
J'ai une petite question quand même, un peu perfide, mais je vous la pose. Niko Kovac, on sait, est très exigeant avec ses joueurs, hein, à l'image d'un Sampaoli ou d'un Peter Bosch, mais lui, il est en saison 2. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de lassitude chez les joueurs de devoir fournir autant d'efforts? Est-ce que ça, c'est pas le danger qui peut guetter Monaco cette saison?
Bah on l'a vu la saison dernière avec les jeunes joueurs où ils ont vraiment adhéré à ce qu'il a demandé, notamment Tchouaméni ou Fofana au milieu de terrain qui ont été vraiment régnants tout au long de la saison. Et il a su aussi leur mettre dans cet état d'esprit-là qu'il fallait travailler pour les autres, mais aussi pour avoir des résultats.
Ils ont quand même fini à bout de souffle.
Oui, ils ont fini à bout de souffle. Maintenant, ils ont fait un recrutement aussi qui leur a permis de pas doubler tous les postes, mais de doubler certains postes, notamment avec Jean-Lucas au milieu de terrain, avec des jeunes joueurs comme Atsuyi qui sont présents et qui devraient avoir plus de temps de jeu. Donc aujourd'hui, à partir du moment où tu as un effectif qui te permet de faire reposer certains cadres, on l'a vu face à Lorient, même si ça n'a pas été payant parce que c'est le début de saison aussi, ça pourra te donner quelques indications et qui pourront te permettre de jouer cette saison à fond, à tous les niveaux. Moi, je pense véritablement que Kovac, sur sa première saison, il ne s'est pas trompé. Et aujourd'hui, les joueurs ont appris et ont vu qu'en travaillant de cette façon, on aura des résultats. Donc ça, à partir du moment où les joueurs l'ont assimilé, il n'y a pas de raison que ça change.
Monaco, donc, qui jouera contre le Shakhtar Donetsk mardi pour ce premier tour, hein, pour aller en Ligue des Champions, et qui, vendredi, recevra Lens. Donc, pareil, une équipe pas facile motivée à manœuvrer et motivée, sans doute, pour aller faire quelque chose.
Avec un gardien début exceptionnel.
Jean-Louis Descartes.
Oui, voilà. Mais non, de temps en temps, et on les fait jouer. Hein.
Mais il est très bon, Jean-Louis Descartes. Dans un petit instant, on va passer à l'exclusivité dont on fait le match. Les fameux tirs au but. Je vous poserai une question. Le premier, le plus prompt à dégainer, il répondra. Ce sera dans un petit instant sur RTL. À tout de suite.
On refait le match.
Florian Gazan sur RTL.
On refait le match sur RTL jusqu'à 20h avec Cindy Colmenares, Xavier Barré, Dominique Bailly et Stéphane Tortora et Philippe Sanfourche au Parc des Princes. On attend le Messi, si je puis dire. Pour l'instant, toujours pas là, Philippe?
Non, mais on est en train de monter le podium au centre du terrain, donc ça ne saurait tarder. En attendant, on fait intervenir au micro les anciennes gloires du parc. Il y a Javier Pastore là, qui a fait monter un petit peu la température encore dans ce Parc des Princes qui se remplit.
D'accord. Mais le podium, ils sont pas champions encore, Paris, hein, Philippe?
Ah ben non, mais il faut bien quand même surélever un petit peu Léo Messi avec son 1m69. Il faut qu'il soit bien visible de l'ensemble des
spectateurs. C'est pas pitié, 1m69.
Il n'y avait pas de souci avec Zlatan à l'époque, ça on est bien d'accord. Bon, ben Philippe, s'il arrive avant 20h, Messi, vous intervenez. Puis nous, on va continuer l'émission avec la fameuse séquence des tirs au but. Vous connaissez le principe, je vous fais une affirmation, une question sur le football. Le premier qui dégaine me répond. Au coup de sifflet, attention, si c'est avant le coup de sifflet, c'est retiré. Hein, parce qu'il y a la VAR et tout, on rigole pas.
Ça, c'est pour moi qui.
Vous êtes prêts? La polémique sur Omar Da Fonseca qui hurle Messi, Messi à la fin de la conférence de presse, geste jugé inapproprié par certains journalistes, ridicule ou compréhensible?
Ridicule.
Ridicule, pourquoi?
Oui, par la simple et bonne raison qu'il s'agit d'un consultant et non d'un journaliste, et beaucoup ont du mal à faire distinguer tout ça et faire l'amalgame. C'est un consultant, j'allais dire. C'est un consultant qui en plus est argentin, qui n'a jamais caché qu'il est admiratif de l'argentin Lionel Messi, et ce qui n'est pas très courant en fait en Argentine, parce qu'ils ont toujours en très haute estime Maradona, un peu moins Messi. Et voilà, et moi je pense qu'il faut arrêter, tant qu'on est dans la joie, dans l'enthousiasme, qu'on ne coupe pas la conférence des presses et que vraiment on ne vient pas titiller tout ça les journalistes. Pour moi, c'est OK. La seule chose que j'ai trouvée, c'est qu'il était un peu insistant par rapport à Messi. On l'entendait vraiment insister que sa famille. C'était des bons cœurs, mais c'était un peu trop. Voilà.
Et vous comprenez que certains journalistes étaient choqués par cette intervention. Bon, on connaît Omar de Fonseca, il est dans l'extrême, et c'est ce qui fait aussi son charme.
Même à l'antenne, il est exubérant.
Ah oui, ça, c'est sûr que. Oui.
C'est
je pense qu'il a jamais chuchoté de sa vie.
C'est pas très surprenant de le voir comme ça. Moi,
il est là pour ça.
On le connaît tous personnellement. Même dans la vie de tous les jours, il est comme ça, Omar. Donc moi, j'ai pas été choqué. Comme le dit Cindy, c'était peut-être un peu trop et un petit peu trop long, peut-être. Mais bon, après qu'il y ait une polémique comme ça, trois jours sur les réseaux sociaux, que tout le monde prenne la parole en disant il n'est pas dans son rôle, moi ça m'a pas choqué. Voilà.
La question en fait qui est en filigrane de tout ça, c'est savoir est-ce que un journaliste sportif a le droit d'avoir évidemment des affinités avec certains joueurs ou certains clubs, et est-ce qu'il doit les garder pour lui, ou est-ce qu'on doit le savoir? Finalement, c'est un peu quelque part comme les journalistes politiques. C'est toujours intéressant de savoir quelles sont leurs
idées. Il n'est pas journaliste, il est footballeur.
Oui, mais après, si on se rappelle bien qu'il y avait eu la Coupe du Monde, c'était au Brésil, il commentait match avec le maillot de l'Argentine, avec Messi, donc on sait très bien son attachement qu'il a pour ce joueur-là.
Et pour il est argentin,
parce que c'est un argentin, voilà. Donc il y a cette passion qui fait qu'aujourd'hui, il a laissé parler son cœur. Donc de là à dire que est-ce que c'était bien de le faire, oui ou non, c'est pas le problème. Aujourd'hui, il a fait parler son cœur. C'était après, à la fin de la conférence de presse. Oui. Il assume clairement que c'est un fan de Messi. Donc à partir du moment où il le dit, où est le problème?
Et puis c'est historique. Et moi, je pense que si ça fait autant de bruit sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment l'impression que les supporters, c'est leur façon à eux de dire attention, nous on veut de l'enthousiasme. Je pense qu'on a utilisé personnages
pour l'avoir eu après. Il a été quand même touché par la polémique.
Voilà. Oui, parce que ça venait de confrères, ça venait de journalistes qui ont dit qu'il n'avait pas le droit de le faire.
Il a été très triste ensuite d'avoir vécu ça. Il se rendait pas compte, enfin, il n'imaginait pas une seconde que ça allait prendre autant d'ampleur.
Mais il est argentin, nous les Sud-Américains, si vous nous dites, mais vous êtes trop enthousiaste. Enfin, franchement, c'est un peu notre ADN. On est enthousiaste. Donc, on a du mal à peut-être comprendre ces choses-là. Moi, je trouve qu'il s'est maîtrisé. Moi, je pense que s'il ne s'était pas maîtrisé, il aurait parlé en pleine conférence de presse et il aurait été beaucoup plus enthousiaste. Moi, je pense qu'il a fait un effort.
Il se serait peut-être fait sortir. Bon, en tout cas, en tout cas, il a laissé sa carte de visite à Lionel Messi. Lionel Messi peut appeler Omar. Moi, j'ai pas laissé la mienne, il m'appellera pas. On va passer à une autre question, si vous voulez bien, dans ces tirs au but. Romelu Lukaku, l'attaquant belge de retour à Chelsea pour 115 millions d'euros. Est-ce que ça fait des Blues les favoris à leur succession pour la Ligue des Champions?
Pour la Ligue des Champions, c'est très compliqué parce qu'on sait que ça se joue sur une finale sur un match, les autres tours sur deux. En revanche, pour le titre de champion d'Angleterre, moi j'ai lu que le favori c'était Manchester City. Je pense que ce Chelsea-là est très très fort, très très fort. Et même avec Lukaku, c'était un peu le chaînon manquant. Chelsea, depuis qu'il a été racheté par Abramovich, a toujours eu un grand avant-centre. Un avant-centre qui pèse. Il y avait Drogba, il y a eu Diego Costa. Donc c'est la marque de fabrique du club. Ils avaient Lukaku d'ailleurs à l'époque, ils l'avaient pris très jeune. Ouais. Puis finalement, ils l'ont pas gardé, ils l'ont prêté, il a fini par partir, et là il revient, et il revient au sommet de son art. Il a 28 ans maintenant, il a bourlingué, il a été champion d'Italie. Bon, l'Inter peut pas le garder, donc Chelsea le récupère, et je pense qu'il va vraiment apporter énormément à cette équipe de Chelsea. On a ironisé sur Timo Werner qui, le malheureux, ratait toutes les occasions. Même la femme de Thiago Silva avait même posté un message sur les réseaux sociaux après qu'il ait raté.
C'est pas une référence, hein.
Non, mais bon, voilà, donc c'est révélateur qu'il y a quand même un manque de confiance dans Timo Werner, qui est peut-être plus un attaquant de complément qu'un avant-centre. Là, ils ont vraiment le joueur qu'il faut, et je pense qu'à partir de ce moment-là, Chelsea fait figure de favori pour le titre de champion d'Angleterre, et naturellement, compte tenu de la supériorité de la Première Ligue sur le reste du football européen aujourd'hui, pour la Ligue des Champions. Mais ils ne seront pas seuls.
Et puis ils ont un formidable entraîneur.
Eh oui, Thomas Tuchel. Ah oui, pour ne pas le citer. Chelsea qui a gagné d'ailleurs aujourd'hui, hein, 3-0, c'était la première journée de Première Ligue. Le championnat anglais a repris 3-0 face à Crystal Palace de Patrick Vieira, qui commence lui pas très très bien son aventure anglaise. Romelu Lukaku, c'est quand même hallucinant ce joueur, parce que c'est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du foot en matière de transfert cumulé, 325 millions d'euros, Manchester, puisqu'il a été vendu par Inter, Chelsea, Everton.
Mais il
ça.
Est excellent,
c'est
les gens ne réalisent pas à quel point ces joueurs, et je trouve que les gens sont très injustes par rapport à lui, ne
vous
se réalisent pas.
Vous pour Stéphane Powell, ce qui nous écoute peut-être.
Ah non, je l'écoute pas, je ne savais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est un excellent joueur qui souffre parfois de cette exigence, que parfois on ne sait pas pourquoi ça vient comme ça. Ce que je trouve malheureux, c'est qu'il revient finalement à cette équipe de Chelsea. C'est un peu désolé, mais on dit que quand on se remet avec ses sexes, c'est un peu comme ravaler son vomi. Et c'est horrible qu'on fasse, mais c'est la réalité. Donc en fait
voilà. Vous n'avez pas plus politique, Cindy, parce que là, donc,
ça va être
vous
horrible. Non, mais ça va être horrible.
Alors, on se met à table.
C'est horrible.
Bon appétit.
C'est horrible pour lui. Mais après, je trouve que ça va être excellent pour les clubs. Il va s'éclater à Chelsea et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Il les mérite.
Bon, si vous avez d'autres proverbes vénézuéliens, vous les gardez pour vous.
C'est français, ça. Je
ah, d'accord. Ok. Autre question que je vous pose. Raphaël Varane officiellement à Manchester United depuis aujourd'hui. Il a signé jusqu'en 2025. Bonne nouvelle pour les Bleus, ce transfert après 10 ans et 18 trophées au Real Madrid ?
Pas forcément.
Alors, Xavier ?
Pas forcément, rapide. Parce qu'on sait qu'en Angleterre, la saison est plus demandeuse qu'en Espagne. Donc, il va jouer des compétitions supplémentaires. Alors, bien sûr, Manchester United a un gros effectif. Ils peuvent faire tourner en charnière centrale. Il y aura Lindelof, le Suédois, Eric Bailly, l'Ivoirien, et puis, bien sûr, Harry Maguire, plus d'autres sur lesquels on compte beaucoup moins. Mais a priori, il est là pour jouer les grands matchs. Le championnat d'Angleterre est le plus relevé au monde. La Ligue des Champions, bien sûr, Manchester United y revient. Donc ça fait des rendez-vous auxquels il va devoir participer. Et donc, quand il va arriver en équipe de France, je pense qu'il sera plus fatigué par sa saison anglaise qu'il l'était par la saison au Real Madrid, même si le Real Madrid est un grand club. On sait que déjà, il y a pas de Coupe de la Ligue en Espagne. La Coupe d'Espagne. La Coupe d'Espagne, ces dernières années, le Real Madrid s'est fait éliminer assez vite, en général. Donc, ils n'avaient pas à la jouer. Donc,
ça va être usant.
Et puis, parfois, je pense que ça va être très usant pour lui. Et puis, ben voilà, comme il vieillit, du coup, et même s'il n'est pas encore à 30 ans, eh bien forcément, je pense qu'il sera moins frais pour les Bleus qu'il avait pu l'être, notamment lors de la Coupe du Monde 2018 où il avait été exceptionnel.
Ah, Didier Deschamps ne va pas être très content de vous entendre.
Non, après aussi, il avait besoin d'un changement. Ça faisait très longtemps qu'il était du côté du Real Madrid.
10 ans.
On sent aussi que du côté du Real Madrid, ça commence à s'éroder, qu'on avait besoin d'un renouvellement. Je pense que lui aussi, mentalement, il avait besoin d'un nouveau challenge. Et là, découvrir l'Angleterre avec un club comme Manchester United, ce sera de bonnes raisons pour lui de se remettre en question et de reprouver à nouveau que ça reste un très grand défenseur.
Justement, je parlais du Real Madrid, la Liga espagnole qui reprend ce week-end, le Barça sans Messi, le Real sans Mbappé pour l'instant. Qui est le favori cette saison, l'un, l'autre ou aucun des deux?
L'Atlético Madrid. Ils ont été champions. Ils ont un titre à défendre et on voit aussi que de l'autre côté, du côté du FC Barcelone, ça s'est appauvri. On a vu du côté du Real Madrid aussi, on a perdu des joueurs qu'on a du mal à remplacer. On a un nouvel entraîneur, même si Ancelotti connaît bien la maison, qui aura besoin d'avoir du temps pour remettre en place aussi une équipe. Donc aujourd'hui, l'Atlético Madrid, qui n'a pas forcément beaucoup bougé dans son effectif, qui s'est renforcé notamment avec le joueur argentin Raúl de Paul, a toutes les garanties, on va dire, tout le bagage pour aller au bout de cette compétition comme ils l'ont fait la saison dernière. Maintenant, bien évidemment, une saison c'est long. Il y a aussi la Ligue des Champions qui prendra beaucoup d'énergie. Mais si on compare ce qui s'est fait la saison dernière avec les effectifs d'aujourd'hui par rapport au Real Madrid et au FC Barcelone, tu as quand même un cap d'avance.
Suis désolée, vous avez oublié les plus importants, c'est que l'Atlético Madrid est en meilleure position pour gagner parce qu'ils ont Luis Suárez, l'Uruguayen. Non mais c'est vrai, il apporte des éléments. L'Amérique du Sud représente. Mais en fait, c'est vrai que si vraiment on peut critiquer quelque chose à Barcelone, c'est la façon dont ils sont laissés partir ces joueurs extraordinaires. Et justement, là, c'est encore les rappels. Si l'Atlético gagne,
à Barcelone, ils ont quand même quelque chose d'extraordinaire à reconstruire. On va voir comment ça se passe. Mais Messi effectivement vampirisait complètement l'équipe depuis qu'il y est arrivé, depuis 15 ans. Donc du coup là, il a quand même Griezmann. Ils ont pris Memphis Depay. Même si il y a des problèmes avec les contrats, il y en a qui sont pas.
Mais ça a été validé.
Bon, en fin d'après-midi.
Ils ont jeunes qui arrivent. Ansu Fati, Pedri, Ricky Puig. Ils ont de la matière. Et c'est là, on va voir ce que Ronald Koeman vaut vraiment comme entraîneur. ses références par le passé, il n'a pas toujours été très convaincant parce que bah il est passé vite fait en Angleterre.
Avec la sélection
néerlandaise, c'est intéressant ce qu'il a fait. Alors c'était avec une sélection. Voilà, là à Barcelone, maintenant il a les coudées franches. Il avait déclaré qu'il comptait sur Griezmann en arrivant. Bah maintenant ça va être son patron. Donc c'est à lui de montrer qu'effectivement, bah, le Barça peut exister sans Messi.
Oui Stéphane.
Le Real Madrid qui a démenti cet après-midi la folle rumeur en conflit avec Javier Tebas,
le patron de la Liga,
le patron de la Liga, et qui la rumeur était qu'il voulait quitter le championnat espagnol pour rejoindre la Première Ligue et le championnat anglais, et le Real s'est fendu d'un communiqué en disant c'est n'importe quoi.
Le
Mundo Deportivo qui est un quotidien catalan.
Ça aurait été quand même
habitué de ces genres de choses. Mais pour revenir sur ce que tu disais,
on rappelle qu'on est le 14 août, pas le 1er avril.
Pour revenir à ce que tu disais, Xavier, je suis tout à fait d'accord sur les faits qui sont des pépites, les Barça, tu sais très bien de les rappeler, mais tout ça, ça met du temps, en fait. Et là, la saison, elle commence. Est-ce qu'ils auront vraiment les temps de mettre tout ça en place avec un départ? Et même si, parfois, ils lobotisent un peu l'équipe du Barça, ils sont quand même très Messi-dépendants. Donc, il faut les temps au temps.
Il a mis 30 buts la saison dernière, hein. Messi, 30 buts Messi la saison dernière. Donc aujourd'hui, le secteur offensif de la saison dernière ne passait quasiment que par lui. On a vu qu'avec Griezmann, ça n'arrivait pas forcément à combiner. Avec un Dembélé qui, quand il n'est pas blessé, peut être performant, mais il avait besoin aussi de soutien autour de lui. Donc aujourd'hui, c'est tout un effectif et une stratégie à reconstruire du côté de Barcelone. Et ça ne vient pas du jour au lendemain.
Ils ont fait toute la préparation d'avant-saison sans Messi, puisqu'il était en vacances avec la Copa América. Donc ils sont déjà en train de travailler sur une option sans Messi. Ils ne savaient pas que ce serait vraiment sans Messi.
Il
est plus là.
Ça se confirme.
Finalement, la meilleure nouvelle de Messi à Paris, c'est pour Antoine Griezmann. C'est fabuleux ce qui lui arrive.
Quand on a vu qu'il arrivait, il avait du mal véritablement, même si dans le discours, bien évidemment, il allait dire que s'il entendait très bien avec lui, on voyait que dans le jeu, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Ce n'était pas l'Antoine Griezmann de l'Atlético de Madrid ou qu'on pouvait voir en équipe de France. Donc aujourd'hui, sans l'ombre de Messi, en étant peut-être le leader avec Depay de cette ligne offensive, il aura peut-être plus de responsabilités à lui de la saisir et à voir aussi dans quel schéma Coman va pouvoir l'utiliser. Est-ce qu'il sera numéro 9 ou en faux numéro 9? Là où Messi aimait bien se balader, peut-être que Griezmann va pouvoir reprendre cette place.
Clairement, c'était la place. Il y avait un fauteuil pour deux à Barcelone.
Donc, il se marchait un peu dessus. Coutinho qui était venu, qui n'arrivait pas à fonctionner avec Messi parce qu'ils avaient la même zone d'activité. Là, avec Griezmann, c'était la même chose.
On va faire un petit point sur la Ligue 2 avant de finir ce refait le match quand même, parce que on a cette. Il y a eu des buts. Figurez-vous, il y en a eu. Il y a quelques-uns quand même. Ça s'est agité. Amiens mène à Guingamp pour le moment. On a Niort qui mène face à Grenoble Foot. Quévilly Rouen qui mène face à Dijon. Dijon, c'est compliqué. Hein, le passage de Ligue 1 en Ligue 2, c'est du rail. Et Sochaux mène 1-0 face à Dunkerque. Voilà pour la Ligue 2. Pour ce qui est du Parc des Princes, on va refaire un petit tour. Philippe, Messi nous a posé un lapin. Je suis pas content, moi.
Mais vous arrivez à point nommé, puisqu'on est en train d'égrener le nom des joueurs qui vont composer la feuille de match. Et tous ont été évidemment copieusement applaudis, sauf, imaginez qui ? Kylian Mbappé. On a entendu beaucoup plus de sifflets que d'applaudissements. Donc il y a clairement un problème Mbappé qui va se poser et qui va augmenter dans les jours à venir.
Il n'aura pas envie de rester là comme ça.
Ceci dit, on va être motivé.
Souvenez-vous, il y a une époque où les supporters ont aussi sifflé Neymar.
C'était même plus sifflé, c'était hué. Il y avait des banderoles insultantes dans les tribunes. Juste de toute façon, pour avoir pu sonder un petit peu son entourage, il s'y attend. Il sait très bien que la situation actuelle le fait passer pour le vilain petit canard. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Et en plus, le Paris Saint-Germain, toute proportion gardier, a connu ce genre de situation assez régulièrement. Il n'y a pas si longtemps, même si ce n'était pas à la même échelle, le dossier Rabiot avait été mené à peu près de la même manière. Ouais. Et à la fin, Adrien Rabiot, qui était un pur produit du club formé à la maison, est parti sous les huées du public. Et il y a encore une grande partie des supporters qui lui en veulent énormément.
On verra, Philippe. En tout cas, on vous retrouvera à 21h sur RTL pour ce PSG Strasbourg. On verra si Mbappé marque, quelle sera sa réaction à lui et celle du public. Ce sera intéressant à décrypter. Merci à tous d'avoir été avec nous pour On refait le match. Merci. On se retrouve samedi prochain à 18h30. Dans un instant, Eric Silvestro, Giovanni Castaldi pour RTL Foot avec donc ce PSG Strasbourg et la présentation de Messi. C'est eux qui vont l'avoir, salopards. À la semaine prochaine sur RTL.